Bonjour. Bonjour.
Comment ça va?
Bonjour. Salut. Ça va?
Ça va, mais pas toi.
Moi, j'ai connu mieux. Ah merde, faut que je la mette dans l'autre sens. Ça va mieux grâce à ce délicieux café servi dans une tasse de toute beauté. T'es pas censé être malade?
Si.
Si. J'ai tweeté que j'allais pas trop streamer cette semaine. Et du coup, j'inaugure en lançant un stream. Merci PEMF pour ton resub. Merci, merci Saika. Merci Angie. Merci Bishlump. Merci Blewen. Blenwen. Du café à 18h, tu résistes à la caféine ou tu fais des insomnies? Ah non, je résiste à la caféine. T'as quoi la grippe? Non, 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 non. La semaine dernière, j'avais chopé un virus saisonnier random. Et il a décidé de muter discrètement au cours de la semaine en angine. Donc j'ai une infection de la gorge, quoi. Voilà, merci Ampecoraro. Merci pour les 5 subs offerts au chat, merci beaucoup.
Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment.
Je danse pas beaucoup parce que j'ai un peu mal à la tête. Voilà, donc du coup, infection de la gorge. Mais du coup, je suis sous antibiotiques depuis 3 jours et ça commence à aller mieux. Enfin, ça réduit, quoi. J'ai les ganglions qui ganglionnent. Ganglion, c'est marrant comme nom. On dirait le nom d'une petite fleur des prés. T'es pas mort, tu fais des tweets. Ouais, faudrait que j'arrête d'ailleurs. Donc voilà. Merci pour vos resubs, hein, merci beaucoup. Merci Iruamagu. Merci Fiblapin. Merci Rodeus. Du coup voilà, ouais, du coup un peu la maladance là. Un peu la maladance. Merci Tégréhuge. Alors tu restes toutes les crèves de 2023. Ouais, j'ai testé pour vous la crève, je recommande pas. Voilà. Fin du test, fin de la review. Merci François. Ouais, du coup un peu la maladance. En plus, il y a un plombier qui vient refaire ma salle de bain. Donc il va être là tous les jours pour faire des travaux. En plus, c'est les vacances parlementaires, donc il n'y a pas QAG demain. Donc je me suis dit, tiens, tu sais quoi, on va en profiter pour lever le pied, y aller mollo. Donc je lance un stream. Merci Manitou pour ton prime. Va dormir. Mais j'ai fait que ça ce week-end là déjà. J'arrête pas de dormir. C'est bon, ça va. Trop relou. En plus, ça fait 1000 ans qu'on n'a pas joué au Flight Simulator. Faudrait qu'on s'y remette un jour. LR n'aime pas Backseat pour écarter Pradier. Ah, je pense que le passage d'Aurélien Pradier sur Backseat a joué dans la décision de LR. Non, évidemment, je ne vais pas prétendre que c'est parce que Pradier est passé sur Backseat qu'il a été viré, mais Éric Ciotti lui reproche ses aventures personnelles. Il fait entendre sa petite opinion personnelle, alors que les Républicains ont dealé avec Matignon un soutien à la réforme. Donc ils apprécient pas qu'Aurélien Pradier, ils disent niquez-vous. Merci Commandeur Ham pour les 5 subs offerts au chat, merci
Je
beaucoup.
possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, les affaires marchent en ce moment.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et du coup, je sais pas pourquoi il a décidé de faire 5 fois l'annonce. Il a été viré. Aurélien Pradier a été démis de son poste de vice-président du Parti Les Républicains. Voilà. Bon, il n'est pas viré du groupe, il n'est pas viré du parti, il est juste plus vice-président. Je pense que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, puisqu'Aurélien Pradier a réussi au cours de la séquence à se faire bien connaître du public de Backseat. Donc ça, son caractère iconoclaste lui a permis de faire valoir son identité politique. Donc, d'un certain point de vue, il a gagné beaucoup. Bah, il a perdu sa vice-présidence en échange. Un virus, mais sous antibio. Non, c'est un virus qui a muté en infection. Je suis étudiant en droit, j'aimerais bien faire un stage auprès d'un député. Sais-tu s'il faut que je le contacte directement? Oui, directement. Il n'y a pas d'autre solution. Pradier pourrait rejoindre Renaissance. Non, non. Non, Aurélien Pradier n'a pas. Non, il va pas rejoindre Renaissance alors qu'il est contre leur réforme des retraites. Non, non, pour l'instant, il reste chez les Républicains. Hein. Je voudrais pas dire, mais le dernier qui s'est fait virer de ses fonctions par son camp, car ses idées étaient trop détonnantes pour son camp, il s'appelait Emmanuel Macron, il est devenu président de la République. À quel moment Macron s'est fait virer? De quoi? Jamais. Macron n'était pas au Parti Socialiste, hein. Il n'a pas été viré du PS. Il a créé son propre parti en 2016. Il a quitté le gouvernement. Il a déclaré sa candidature. Non, Macron n'a jamais été viré, hein. C'est lui qui a quitté le gouvernement. Il a jamais été PS, Macron? Si, il a été PS. Au début des années 2010, je crois, Macron a été membre du Parti Socialiste. Après, mais il n'a jamais été élu, Macron, avant. Donc, il avait pas besoin d'être au PS. Hein. Il n'a jamais eu de circonscription. Il n'a jamais été candidat. Il était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Ensuite, il est devenu ministre de l'économie. Ensuite, il a quitté le ministère de l'économie pour lancer sa campagne et devenir président de la République. Il n'a pas besoin d'être dans un parti. Hein. Merci, la Gauloise. Il a été au PS de 2006 à 2009. Ah oui, c'est vrai, oui, il avait eu une petite aventure au PS, mais sans être candidat à quoi que ce soit pendant cette période, je crois. Il avait dû faire la campagne de Ségolène Royal en 2007, mais sans plus. Il n'était pas candidat aux législatives, il n'était pas sur une liste aux élections. Voilà. Pas besoin d'être dans un parti ou plus besoin d'être dans un parti? Ah! On peut en parler, finalement. Est-ce utile d'être dans un parti? Macron n'a-t-il pas fait la démonstration que ça ne servait pas à grand-chose d'être dans un parti? Comment il a pu se retrouver ministre de l'économie? Sérieux. Bah, Macron était un jeune mec brillant qui avait été repéré notamment par... dans les équipes de Rocard, dans les équipes surtout de, comment il s'appelle, Attali. Il avait été chaudement recommandé par tout un tas de hauts fonctionnaires qui le connaissaient à Hollande en lui disant « Tu devrais le prendre à l'Élysée avec toi, il est très bon le gamin. » Hollande l'avait pris, il avait été secrétaire général adjoint. Et puis au cours d'un remaniement, Hollande a décidé de lui confier un portefeuille ministériel. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être membre d'un parti politique pour être élu, hein. Pour être élu, pardon, pour être nommé. Merci Altisplay pour ton raid. Bonjour, bienvenue les viewers d'Altisplay, bienvenue. Je m'appelle Jean Massier, on parle de politique sur cette chaîne. Mais là aujourd'hui, ça va être un stream tout tranquille parce que je suis malade, donc peinard. Mais bienvenue à vous, j'espère que vous avez passé un bon stream, que c'était chouette. L'ancrage local, c'est mieux. Alors, t'as plus. Non, mais c'est intéressant, hein, il y a plusieurs solutions, si je puis dire. Il y a plusieurs types de profils dans la vie politique. Il y a ce qu'on appelle les apparatchiks. Les apparatchiks, c'est un mot russe qui désigne les hommes de l'appareil. L'appareil étant le cliché de l'appareil du Parti communiste à l'époque de l'ère soviétique, qui faisait partie de ce qu'on appelle la nomenklatura. La nomenklatura, c'était carrément la classe sociale des gens qui avaient du pouvoir et de l'influence. Ils étaient très nombreux, parce que l'administration, c'était un pays administré, donc l'administration faisait tout, c'était l'administration qui décidait de tout, de si t'allais avoir un appartement, une bagnole, un frigidaire, si ton gamin allait à l'école ou pas, etc. Bon, bref. Donc voilà, donc les apparatchiks, c'était les hommes de l'appareil, les hommes qui faisaient carrière dans l'appareil, etc. Et donc le mot est resté pour désigner de manière péjorative les hommes et les femmes qui font carrière dans un appareil partisan, dans un parti politique et qui passent leur temps dans le parti, avec la vie du parti, etc. Bon, il y en a plein, hein, des apparatchiks. Donc voilà. Ensuite, tu as effectivement les hommes de territoire, les hommes de terrain, typiquement Aurélien Pradier, des gens qui sont élus dans leur territoire, qui ont la légitimité de leur territoire, qui ont toujours eu une assise électorale dans un territoire donné. On peut penser à François Bayrou à Pau, on peut penser à Édouard Philippe au Havre, on peut penser à. Voilà, il y a des gens qui ont un territoire d'élection, ça a toujours été leur territoire d'élection, et ils sont légitimes dans ce territoire, donc ils seront toujours là, et ils auront toujours été légitimés par leur territoire. Et donc ils sont tranquilles. Enfin, ils sont tranquilles. Ils font une carrière politique boostée par un territoire qui les soutient corps et âme. Donc ça, c'est les hommes de terrain, les hommes de territoire. Ensuite, il y a ceux qu'on appelle la société civile. Donc c'est des personnalités. C'est des personnalités qui ont fait carrière et qui se sont fait un nom dans l'entreprise, dans l'associatif, dans le monde de l'activité, et qui en tirent une légitimité qui leur permet de prétendre à un portefeuille ministériel, parce que c'est des gens qui connaissent très très bien les dossiers, qui l'ont pratiqué. Donc là, vous pouvez trouver des directeurs d'hôpitaux, des directeurs d'université, des présidents d'université, des. On avait par exemple Nicolas Hulot avec la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, on avait Yannick Jadot avec Greenpeace, Cédric Villani le mathématicien. Vous voyez, on peut aller chercher beaucoup de personnalités politiques comme ça qui ont une légitimité issue de leur activité professionnelle, d'engagement, etc. Martin Hirsch. Martin Hirsch, c'était la Fondation Abbé Pierre ou le SAMU social, je sais plus. Non, c'était Emmaüs, pardon, c'était Emmaüs. Dupond-Moretti, un avocat célèbre. Oui, bien sûr. Donc voilà, donc il y a plein de profils en politique qui sont pas tous sortis de la même du même moule, qui ont des légitimités qui sont différentes, et voilà. Martin Hirsch, c'est plutôt la PHP. Ah non, Martin Hirsch, c'était le président d'Emmaüs, qui a été secrétaire, qui a été commissaire, haut commissaire aux solidarités actives, sous le gouvernement de Nicolas Sarkozy, enfin de François Fillon à l'époque. Il a mis en place le RSA, mais il était typiquement un mec issu de la société civile. C'était un expert de la pauvreté, de l'exclusion. C'est un homme qui, toute sa vie, a été engagé dans la lutte contre l'exclusion. Il a été à la tête d'Emmaüs. Très très fin connaisseur des dispositifs pour lutter contre l'exclusion et la grande pauvreté. C'est lui qui a eu l'idée du RSA, il a écrit plein de bouquins sur la pauvreté et tout. Il a eu l'idée du RSA, il a mis en place le RSA. Nicolas Sarkozy l'a appelé au gouvernement en lui disant, bah voilà, vous êtes quelqu'un de smart, vous n'êtes pas de mon parti politique, mais je veux que vous mettiez en place le RSA, c'est une idée intéressante et tout. Donc voilà, il a mis en place le RSA, il a fait voter sa loi, machin. Ensuite, il est devenu haut commissaire aux solidarités actives et à la jeunesse, il a récupéré le portefeuille de la jeunesse. Donc il a mis en place le service civique. Et ensuite, il a quitté pour prendre la tête de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, la PHP. Et aujourd'hui, je ne sais plus ce qu'il fout, Martin Hirsch. Il est peut-être toujours à la PHP, d'ailleurs. Donc voilà. Massier, c'est vraiment de la propagande que tu fais. Je te conseille d'aller voir ce qu'en dit Juan Branco qui a fait partie de ce milieu. J'irai voir. Je m'instruirai. Il a quitté la PHP l'année dernière. Mais oui, c'est bien ce que je me disais. Il était arrivé à la fin de son mandat, Martin Hirsch. Je sais pas ce qu'il fout maintenant, Martin Hirsch. Le RSA, c'est Jospin. Non, Jospin, c'était le RMI. Oui, c'était le RMI. Justement, comment il s'appelle? Martin Hirsch a créé le RSA pour lutter contre les effets pervers du RMI et créer un système plus intelligent, plus souple. Avec le RSA de base, le RSA chapeau, puis il y a eu la prime d'activité parce qu'on a fusionné le RSA chapeau avec la prime pour l'emploi, la PPE. Oula, je vais pas vous emmerder trop avec ça parce que l'histoire des dispositifs sociaux de lutte contre la pauvreté et pour l'insertion professionnelle, compliqué. C'est pas Rocard le RMI? Si. Si, le RMI c'est Rocard. Je confonds. Alors Jospin, c'était la couverture maladie universelle qui a été mise en place par Martine Aubry, la CMU. Souvent destinée aux allocataires du RMI, effectivement. Ouais, c'était Rocard le RMI. Je comprends pas vraiment un de tes derniers tweets, une réaction du tweet d'Alain Jakubowicz. Est-ce que c'est vraiment du sexisme ou une critique de la tenue décorrélée du sexe de la députée? Alors regarde, on va regarder ensemble le tweet. Effectivement, moi quand j'ai mal au crâne, que je suis pas réveillé le matin ou que je suis malade, je fais des tweets. Il y a un tweet qui a été fait par Alain Jakubowicz. Alain Jakubowicz qui tweet une photo d'une députée de la France Insoumise qui s'appelle. J'ai oublié son nom. Ça va me revenir, j'ai mal au crâne. Donc voilà, donc c'est une photo qui a beaucoup tourné sur Twitter avec des gens qui se moquent de la tenue vestimentaire de cette députée. C'est Ercilia Soudet. Ercilia Soudet, merci. Ça va finir par rentrer. Et donc il y a plein de gens qui se sont moqués de sa tenue. Bon, comme d'hab, Twitter, les masculinistes, les misogynes, l'extrême droite s'en sont donnés à cœur joie. Et à ma grande surprise, il y a Alain Jakubowicz qui a décidé de rentrer dans l'art. Alain Jakubowicz, avocat célèbre, grand défenseur enfin, ancien président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, un homme qui s'est élevé toute sa vie contre les discriminations. Contre l'antisémitisme, contre le racisme, etc. Et moi, je vois ce tweet, tenue d'hiver d'une députée, on redoute l'été. Sous-entendu, elle n'est pas très couverte, la jeune fille. Et moi, je me suis dit, bah, qu'est-ce que tu branles, Alain? Enfin, pas toi, quoi. Parce que bon, des gros cons sur Twitter, il y a ce qu'il faut, mais je veux dire, Alain Jakubowicz, moi, je le mettais plutôt parmi les. Voilà, plutôt le haut du panier, quoi. Plutôt des mecs qui écrivent des bouquins, qui publient des tribunes et qui s'élèvent contre les discriminations, tu vois. Bon. Donc du coup, moi, il m'a déçu. Voilà, il m'a beaucoup déçu, Alain Jakubowicz. Franchement, là, tu nous aides pas, mec. Et donc j'ai tweeté, j'ai rappelé la règle du chat. J'ai rappelé la règle du chat, on l'a dit, on le redira aussi longtemps qu'il le faudra, le corps des femmes n'est pas un terrain de débat politique, on ne compte plus les victimes. Ercilla Soudet, donc c'est elle, Marlène Schiappa, Daniel Obono, Sibeth Ndiaye, Rachel Keke, Caroline Fiat, Aurore Berger, Sandrine Rousseau, combien de femmes députées? Et là encore, je n'ai cité que des quelques exemples au cours du dernier quinquennat et de celui-ci, qui s'en prennent plein la gueule à cause de leur apparence, de leur voix, de leur coupe de cheveux, de leur robe, de leurs vêtements, de bref. J'aurais pu aller chercher des quinquennats précédents, mais on n'a que 280 caractères. Donc voilà, donc ouais, le genre de réflexion naze, quoi. Parce que alors, autant on peut avoir un débat intéressant sur la stratégie de la France insoumise, on en a déjà parlé hein, à l'Assemblée nationale, la stratégie de l'obstruction, de la conflictualité, etc. Autant s'en prendre à la manière qu'ont les femmes de s'habiller. Lourdeur un peu. C'est une tenue pro, c'est autorisé, oui, c'est autorisé. Je pensais que les excentricités vestimentaires n'étaient pas appréciées. Alors je rappelle que depuis 2017, le port de la cravate à l'Assemblée nationale n'est plus obligatoire. Les députés se doivent de porter une tenue correcte, s'apparentant à une tenue de ville, Fin de citation. Il y a volontairement, dans le règlement de l'Assemblée, un flou entretenu quant à quant au ce que ça implique, une tenue de ville. On peut en discuter. Porter un short n'est pas apparentable à autre chose qu'une tenue de ville. Donc vous pouvez porter un chandail, vous pouvez porter un pull, un sweat, vous pouvez porter un t-shirt avec une veste. Il est attendu par exemple des hommes qu'ils portent une veste. Et je dis il est attendu parce qu'il peut y avoir des hommes qui portent seulement une chemise et ça ne leur est pas reproché. François Ruffin le fait, Muay Thai Brotherson le fait, voilà. Les hommes peuvent porter un t-shirt lorsqu'ils mettent une veste par-dessus, voilà. Mais les femmes peuvent porter un tailleur, elles peuvent porter un pantalon, elles peuvent porter un jean, elles peuvent porter je suis nul. C'est le moment Christina Cordula. Une robe, un tailleur, oui. Un truc en une seule... Une combinaison, voilà, je cherchais une combi. Une combi, une salopette, voilà. Il y a une interprétation suffisamment large de la règle pour qu'elle puisse être observée de manière smooth par les députés et qu'ils puissent continuer à s'habiller comme à leur habitude. Ce qui n'est pas autorisé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale et de l'hémicycle plus précisément, c'est de porter des vêtements qui portent une revendication. Il y a une exception, il y a une forme de tolérance qui est faite pour le revers de la veste sur laquelle les députés peuvent porter des insignes. La Légion d'honneur, c'est un exemple. Vous savez, le petit point rouge ou le petit filet rouge, le petit fil rouge sur le revers de la veste, ça, c'est la Légion d'honneur. L'Ordre du Mérite, c'est bleu. On peut porter sa cocarde de député. J'ai vu des députés porter des bleuets le 11 novembre, des petits rubans pour Octobre Rose, pour la lutte contre le sida, SIDAction. J'ai vu des insignes des objectifs de développement durable. J'ai vu... le petit logo de la French Tech, il y a le triangle rouge de Jean-Luc Mélenchon, il y a un petit gilet jaune, effectivement j'ai déjà vu un petit gilet jaune. Bon, il y a une, il y a une tolérance pour les petits trucs discrets sur le revers de la veste, qui peuvent porter du coup un symbole politique, si on veut. Oui, l'araignée, la célèbre araignée de comment il s'appelle, Cédric Villani. Donc voilà, il y a une forme de tolérance pour les bijoux de revers de veste. Mais du reste, les députés n'ont pas le droit de porter un maillot de foot, un t-shirt avec écrit un message politique dessus. Voilà. Un t-shirt The Event, ouais. Donc voilà. Donc pareil, il y a aussi... il est attendu des députés qu'ils portent un vêtement en cohérence avec ce qu'ils ont l'habitude de porter en dehors, en ville, comme on dit. Donc Rachel Keke peut très bien porter un boubou. C'est bon, c'est très bien. Muay Thai Brotherson, qui est un député de Calédonie, de Nouvelle-Calédonie, bah, il porte une chemise à fleurs, mais c'est pas chez lui un symbole de. Enfin, en fait, il y a une question. Il faut comprendre en fait la logique d'intentionnalité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas juste, on ne juge pas ex nihilo comme ça un vêtement tiré toute forme de contexte. Qui le porte et pourquoi il ou elle le porte? Polynésie, pardon, pas Calédonie, excusez-moi. Polynésie. Donc c'est un député polynésien, il porte une chemise à fleurs parce que en Polynésie, la chemise à fleurs n'est pas du tout n'est pas vue comme un vêtement de vacances ou comme un vêtement de détente ou de trucs comme ça. Donc l'intentionnalité n'est pas coupable. Voilà. David Douillet aurait-il pu porter un kimono? Ben non, parce que le kimono est un vêtement de sport porté sur un tatami dans le cadre de la pratique d'un sport. Le port du voile, du coup. Le port du voile n'est pas autorisé à l'Assemblée nationale. Les députés doivent s'en tenir au respect du principe de la neutralité religieuse. Ils n'ont pas le droit de porter d'insigne montrant ostensiblement une préférence religieuse. Donc il leur est possible de porter une croix discrète, mais pas un foulard, une kippa, un turban, etc. Une croix au revers du veston, je pense qu'une croix au revers du veston, au revers de la veste, ne passerait pas, non. La croix est OK, selon la jurisprudence habituelle de la neutralité religieuse, de la même manière que les fonctionnaires ont le droit de porter une croix discrète autour du cou. On ne peut pas leur reprocher si jamais la croix sort de leur chemisier et devient apparente. Ce n'est pas très grave, on leur en veut pas. La grosse croix en bois, grande comme ça, par contre, non. Il leur sera poliment demandé de bien vouloir l'enlever ou la dissimuler. C'est quoi la cagnotte en haut à droite? Regarde, point d'exclamation backseat, c'est écrit. Écris point d'exclamation backseat dans le chat. Clique. Munis-toi de ta meilleure carte bleue et soutiens backseat. Est-ce qu'il y a des gens à l'entrée qui vérifient s'ils n'ont pas de signes religieux, etc.? Oui, les huissiers. Ce qu'on appelle les huissiers, ce sont les fonctionnaires de la séance que vous voyez en habit, vous savez, les queues de pied avec les chaînes, etc. Ce sont les fonctionnaires de la séance qui ont pour but de faciliter d'un point de vue logistique le déroulement de la séance publique. Et donc leur job est effectivement de veiller au respect du règlement par les députés, et donc ils se mettent à l'entrée, ils répondent à toutes les questions des députés s'ils ont des questions, ils sont là pour les aider, et ils peuvent être amenés à discuter avec un député. Par le passé, il y avait des huissiers, leur job c'était aussi de vérifier qu'il n'y avait pas des députés un peu trop bourrés qui rentraient dans l'hémicycle. Voilà, ils faisaient preuve de diplomatie en allant voir le député en disant: Monsieur le député, ça vous va si on va marcher ensemble dans le couloir quelques minutes? Faut qu'on discute. Là, voilà. Là, les fonctionnaires de la séance, ils discutaient avec le député en disant: Vous êtes sûr? Vous voulez vraiment aller en séance là? Vous êtes sûr d'être en état? Vous voulez pas vous asseoir un peu, boire un verre d'eau? Après, ils allaient voir le président du groupe du député, ils disaient: Vous pouvez venir lui parler un peu là parce que. Elles servent à quoi leurs chaînes aux huissiers? À rien. C'est une tenue d'apparat. C'est comme une cravate, ça n'a pas de fonction. C'est un habit. Donc voilà. C'est pour rappeler que leurs ancêtres étaient esclaves à l'époque des pharaons. D'après le Parisien, ils vomissent carrément. Ah, d'après le Parisien, les députés, ils y vont pas mollo à la buvette. Alors ça, j'ai envie de dire, c'est la buvette de l'Assemblée, hein. Je veux dire, elle est aussi connue pour ça, hein. Il y a déjà eu des grosses bagarres? Oui, bien sûr. Ah oui, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des députés qui en viennent aux mains dans les couloirs de l'Assemblée. Et les huissiers, leur job, c'est aussi de séparer des députés qui se battent. Parfois, le ton peut monter très très fort. On est à deux doigts, mais voilà. C'est la décompensation. Oui, beaucoup. Le dernier duel à l'épée, oui, c'était 1967, 57? Est-ce que c'est bien sérieux de leur confier le pays du coup? Sais, les gens qui nous gouvernent sont des hommes comme les autres, hein. Voilà. Ah oui, c'était Gaston Defferre, ouais. Voilà, donc ouais, des fois ils boivent. Ouais. J'en ai vu, hein, des députés arrachés. J'en ai vu plus d'un. Pas à l'Assemblée, hein, en dehors. Des ministres bourrés aussi. Bah, j'ai oui, c'est oui. Ce sont pas des surhommes. Non, ce sont pas des surhommes. Ce sont pas des sous-hommes non plus. Hein. Ils sont terriblement humains. Banalement. Et superbement humains. Chassaigne est bienvenu une ou deux fois rond comme une queue de pelle à l'Assemblée. Oui, mais ça m'étonne pas. Surtout au salon de l'agriculture. Ah bah ça, c'était connu. Quand Jacques Chirac visitait le salon de l'agriculture, son secrétariat à l'Élysée ne prévoyait aucun rendez-vous après la visite. En général, il visitait le matin et l'après-midi, il n'avait aucun rendez-vous. Fallait le laisser décuver. Et je crois qu'il y avait des journalistes de Canal+ qui avaient compté la quantité d'alcool que buvait Jacques Chirac au fur et à mesure de sa déambulation. Parce qu'évidemment, il faisait tous les stands du salon de l'agriculture et il buvait des coups, évidemment. Il arrivait au secteur de la Gironde, là où il y avait les viticulteurs. Monsieur le Président, goûtez donc mon vin. Et il prenait un petit verre, il prenait une lampée et tout. Puis, alors, parfois, il en prenait une deuxième, mais pas beaucoup plus, tu vois. Puis après, il allait au stand d'après. Mais en fait, quand tu comptais, il devait descendre deux bouteilles à lui tout seul. Je comprends pas que ça te scandalise pas. Non, ça me scandalise pas. Ça me scandalise pas. J'ai arrêté depuis longtemps de me faire une image d'Épinal du politique ou de sa perfection supposée, ou j'en viens même à souhaiter que les politiques soient des gens comme les autres, en fait. Terriblement banal. Décevant et inspirant, parfois dans la même journée. On peut éventuellement s'inquiéter pour leur santé, ceci dit. Ah bah moi je vous dis toujours, hein, je vous dis toujours. Après on me dit ouais mais bon, ils sont bien payés donc c'est normal. C'est une question de point de vue. Mais la politique est un engagement qui marque le corps, c'est vrai. La politique est un engagement qui fait souffrir parfois, souvent, un peu trop souvent je trouve. Les politiques sont nombreuses et nombreux à connaître des santé mentales fragiles, des phases de dépression, de burn-out, des problèmes d'alcoolisme, du diabète, du surmenage, des problèmes cardiaques, etc. Parce que c'est pas un métier, mais c'est une fonction qui coûte cher au corps, c'est vrai. C'est quand même pas tout le monde qui peut se permettre de picoler au boulot. Ça tombe bien, ils ont pas de boulot, les députés. Donc vaut mieux le savoir avant de se lancer dans une carrière politique que c'est pas neutre. Je préférais quand t'avais 200 viewers, le chat était moins actif et tu voyais nos questions. C'est noté. Est-ce qu'on peut être chômeur et député? Mais évidemment. Fais un don si tu veux qu'il voit ta question. Ah ouais, on va faire ça. Bientôt, vous pourrez me parler quand resub. Ah, ça va devenir comme ça. Hein. Est-ce qu'il y a des politiques dont tu n'aimes pas du tout les idées, mais que tu apprécies humainement? Bien sûr, évidemment. Beaucoup même. Beaucoup. Mais ça c'est une discussion qu'on avait déjà eue. Moi, à la différence de beaucoup de gens, mais c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord, hein, il n'y a aucun problème. J'ai du respect, enfin, oui, j'ai du respect, je reconnais beaucoup la sincérité de l'engagement des personnalités politiques. Y a plein de gens qui défendent des idées que je n'aime pas du tout à titre personnel, mais je ne leur retire pas le fait qu'ils y croient sincèrement dans leurs idées. Ils les défendent sincèrement, ils sont vraiment convaincus que leurs idées sont meilleures que les miennes, etc. Bon, bah, très bien. Du coup, ça me permet de les prendre au sérieux. Parce que je les prends pas pour des guignols, ni pour des menteurs, ni quoi que ce soit. Non, non, en fait, ils croient sérieusement ce qu'ils disent. Bon, et bah. Zemmour, ouais, Zemmour, c'est un bon exemple. Moi, je pense que Zemmour est convaincu. Et je partage pas un quart de seconde sa clé de lecture du monde. Il a une lecture ethno-culturelle des rapports de force, convaincu que la France est une espèce de. Une espèce d'unité ethnico-culturelle chelou. Et qu'elle est assaillie d'attaques permanentes venant de l'étranger, machin. Bon, écoute, c'est sa manière à lui, c'est sa clé de lecture. Par contre, je crois qu'il y croit, enfin, je crois qu'il y croit sincèrement. Qu'il est sincère dans sa clé de lecture du monde. Il pense vraiment que c'est la réalité, que c'est comme ça, etc. Bon, bah, du coup, je le prends au sérieux. Et je le crois d'autant plus dangereux qu'il est très sérieux dans ce qu'il dit. La forteresse à défendre, ouais, bien sûr. Tu penses quoi du clash entre Martinez et la France insoumise? C'est un vrai truc ou un délire d'éditorialiste? Non, je pense que les éditorialistes en font un peu trop lorsqu'ils disent qu'il y a une crise ouverte à la France, à la NUPES, etc. Je pense qu'on n'est pas du tout dans un cas de crise politique. Il y a des divergences d'opinion qui sont connues sur la stratégie à adopter à l'Assemblée. C'est pas nouveau. C'est pas la peine d'en faire des caisses en disant que c'est une crise majeure. Non, c'est pas une crise majeure à la NUPES. Il y en aura d'autres des crises majeures plus tard. Mais celle-là, c'est pas une crise majeure. C'est une divergence de point de vue sur la stratégie à adopter. Les syndicats, notamment Martinez et Laurent Berger, regrettent le blocage d'une partie de la France insoumise à l'Assemblée nationale parce qu'ils auraient voulu que le débat soit posé sur l'article 7. Pareil, c'est pas étonnant, c'est pas grave. Il n'y a pas de quoi en faire. Enfin, ouais, non, là, je pense qu'il y a vraiment des gens qui tout de suite montent sur leur grand cheval en disant c'est une crise ouverte et tout. C'est pas une découverte non plus, hein. Une stratégie, depuis des années, la France insoumise se comporte toujours ainsi. Ah non, ah non, 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 ah non, non, non. Je suis pas d'accord. On a déjà vu la France insoumise mettre de l'eau dans son vin pour obtenir un vote favorable de la part des députés Renaissance. Pas plus tard qu'il y a 2 mois. Autant dire que c'était la stratégie radicalement inverse. Ruffin n'exclut pas une candidature à la présidentielle, Le Parisien. Mais pourquoi t'as besoin de lire Le Parisien alors qu'il l'a dit sur le plateau de Backseat ? Tain ! On vous fait des émissions au poil de cul, d'une très grande qualité, et vous allez lire des journaux papier. Le prochain qui vient dans le chat et qui me dit « Tiens, j'ai découvert un mec qui s'appelle Aurélien Pradier, je sais pas si tu le connais Jean, il a l'air intéressant », je lui en mets une, hein. C'est ban direct. Hein. C'est pour ceux qui s'en souviennent, il y a plusieurs années, on avait fait une émission entière de... C'était le Climaraton, c'était une émission de... On avait fait une émission de 7 heures d'affilée sur le climat. Mais vraiment 7 heures d'affilée, une émission entière et tout, en plateau, ça avait coûté un fric fou et tout. J'étais très content de vous avoir proposé cette émission. Le lendemain, je fais un stream et il y a un mec dans le chat qui me fait « Franchement, Jean, tu parles jamais de climat, c'est trop chiant cette chaîne. » J'avais vraiment envie de l'emplâtrer. Hein. Il y en a marre, tu parles tout le temps de l'Assemblée, tu parles jamais des vrais problèmes, genre le changement climatique. Je vais t'en mettre une. Vraiment, je vais t'en mettre une. On fait ce qu'on peut, les enfants, hein. On fait notre maximum. Quand on vous donne du Nutella, vous voulez de la confiture. À un moment, ça va, hein, vous êtes jamais content. Oh là là. Oh, les enfants gâtés, là. C'était pour troller. Non, 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 non. Non, non, c'était premier degré. Hein. Tu parles beaucoup de politique, mais tu devrais en inviter pour discuter avec eux. Vous êtes chiant. Merci Mantadrien pour ton resub. T'as pensé à parler de politique un jour ? Ah non, non, sur cette chaîne, il n'y a que du gaming. Tu t'intéresses à la politique un peu ? Non, non. Moi, c'est que du gaming, que du LOL. Je joue que à LOL. Je suis un gros cerveau, mais trop gros cerveau pour parler politique. La politique, c'est une science molle, de toute façon. Il n'y a que les maths et la physique qui comptent. Au fait, j'ai pas tout suivi, c'est définitivement terminé l'émission avec Public Sénat. Oui, c'est fini. On a fait une émission pendant 4 ans d'affilée. Public Sénat a été boosté en tête des. Enfin, ouais, ils étaient dans le top 5 des plus grands streams, des plus grosses audiences mondiales du mercredi après-midi sur Twitch, qui est quand même pas dégueulasse pour Public Sénat, pendant 4 ans. Et on a arrêté. Je viens de découvrir ton live, je suis nouvelle, t'as une voix très douce. Ah, mais ça, c'est parce que je suis malade. Demande au chat, le reste du temps, j'ai une voix insupportable. Pourquoi t'as arrêté ? Déjà parce qu'aucune des émissions que je fais n'a vocation à durer éternellement, par principe. Ça faisait 4 ans qu'on faisait cette émission et éditorialement elle commençait à être fatiguée, je trouve. Il y a un moment, bon, je trouvais que j'avais commencé à faire un peu le tour. J'avais interviewé, du coup j'ai interviewé 70 sénateurs en 4 ans. J'avais un peu fait le tour des sénateurs les plus intéressants, je trouve. En plus, Public Sénat a décidé unilatéralement de baisser le tarif de production de l'émission. se retrouvant de fait d'être l'émission la moins bien rémunérée de l'ensemble de ma chaîne depuis toujours. Ça commence à faire beaucoup. Donc voilà. Donc si tu veux une émission qui rapporte pas d'argent, qui est déjà facturée 5 fois en dessous des prix du marché, et qui en plus est un peu fatiguée éditorialement. En plus, c'était ma plus mauvaise audience de la semaine. Non pas que je cours particulièrement après l'audience, sinon je parlerai pas de politique sur Twitch, mais enfin, il y a un moment, bon, ça commençait à faire beaucoup. Donc j'ai préféré arrêter. En disant, c'est pas grave, je vais me concentrer sur Baxit. Ce sera très bien. À qui appartient Public Sénat? Au Sénat, à 100%. Vous faites de la télé ou que du stream? Je fais que du stream, j'ai arrêté la télé. La chaîne appartient à l'État, non. Non, 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 au Sénat, attention. Ouh là là, attention. Ouh là là. Merci Vince pour ton don à Baxit. Merci Tulto pour ton Prime. Est-ce que tu as d'autres projets pour remplacer? J'ai un projet pas mal qui s'appelle Baxit, je sais pas si tu connais. C'est plutôt cool. T'as refusé combien de fois d'être chroniqueur TPMP? On m'a jamais proposé d'être chroniqueur TPMP. L'été, on te voit sur LCI. Ça fait 3 ans que je suis pas sur LCI. Commence à faire beaucoup. Non, non, la télé, j'ai arrêté. Avant, j'étais chroniqueur sur plusieurs plateaux d'actualité politique. Mais bon. Ça ne rapportait ni audience ni argent. Donc au bout d'un moment, et la radio, pareil, hein. France Info, France Inter, etc. À une époque, il y a longtemps, j'étais sur Sud Radio aussi, au tout début, quand ils sont arrivés à Paris, Sud Radio, avant que ça devienne chelou. J'ai été sur CNews aussi, chez Pascal Pro. J'y suis allé 2 fois, je suis jamais retourné. Non, merci. Désolé. Non, il y a quelqu'un qui me demandait les différences entre l'État et le Sénat. Pour des raisons de séparation des pouvoirs, les chaînes parlementaires sont des chaînes qui ont été créées par le Parlement et qui sont dirigées par le Parlement. Ils sont pas du tout entre les mains du gouvernement, sûrement pas. Et pas du tout entre les mains de l'audiovisuel public. Donc Public Sénat et LCP, LCP c'est la version Assemblée nationale, ne font pas partie de France Télévisions, ni de Radio France, ni de France Média Monde. Ils ne sont pas dirigés par l'ARCOM. C'est autre chose. Ce sont des chaînes indépendantes créées par le Parlement. Et dirigées par le Parlement, financées à 100% par le Parlement. Voilà. Et ils ne sont pas sous l'égide de l'ARCOM. Il touche pas la redevance non plus. D'ailleurs, la redevance, je te rappelle qu'elle n'existe plus. Donc leur budget est pris sur le budget du fonctionnement de l'Assemblée nationale et du Sénat. L'Assemblée nationale finance LCP, le Sénat finance Public Sénat. Chacun de son côté. Est-ce qu'on connaît à peu près le budget de ces chaînes? Ah, on connaît même très précisément le budget de ces chaînes. Public Sénat, de mémoire, c'est 17 ou 18 millions d'euros par an. LCP, c'est 15 ou 16 millions d'euros par an. Et à peu près un peu moins de la moitié du budget est consacré aux infrastructures de diffusion. Juste à l'infrastructure, même pas à la prod et tout, machin. Pourquoi deux chaînes? Ils ne pouvaient pas faire une seule chaîne genre C-SPAN aux US. Alors C-SPAN, c'est la chaîne parlementaire américaine. Figure-toi que C-SPAN a été créé par les câblo-opérateurs américains. C'est les opérateurs téléphoniques, enfin c'est les opérateurs TV américains qui ont créé C-SPAN. C'est une chaîne privée donc, c'est écrit dans ses statuts qu'ils ont un principe non lucratif. Donc c'est pas une chaîne qui est faite pour faire du pognon, heureusement. C-SPAN a été créé par les câbles opérateurs, notamment pour vendre au Congrès le principe de la télé par satellite. C'est très particulier, l'audiovisuel américain. Ils ont les networks et tout. Enfin, ils ont un fonctionnement qui n'est pas européen du tout. C'est très particulier. Mais peu importe. Pourquoi il y a deux chaînes? Bah, les chaînes parlementaires ont été créées en 1999, à l'époque où ça avait du sens de créer une chaîne télé. Et le but, c'était pour l'Assemblée nationale comme pour le Sénat, c'était de se rapprocher de la population en faisant un travail d'ouverture, de modernisation et enfin de transparence des travaux politiques et parlementaires auprès du grand public. C'était une époque où on anticipait la création du réseau TNT, qui allait remplacer le réseau hertzien. Donc ça avait du sens aussi de créer une chaîne en disant que de toutes les façons, bientôt, ce serait une chaîne qui ferait partie du bouquet gratuit et ouvert à toutes les chaînes. Et pourquoi deux chaînes? Parce que quand les députés ont émis l'hypothèse de créer LCP, les sénateurs ont dit qu'il est hors de question qu'il existe une chaîne parlementaire uniquement dirigée par les députés, on veut créer notre chaîne à nous. C'est la grosse jalousie entre les chambres du Parlement. Le Sénat ne supporte pas l'idée que les députés soient les seuls maîtres du narratif autour du Parlement. Donc pour défendre leur spécificité, les sénateurs ont dit, bah, puisque c'est comme ça, nous aussi, on va créer notre propre chaîne. Et donc ils ont créé Public Sénat, avec son créateur a été Alcabache. Pierre Alcabache, le premier. Et du coup, voilà pourquoi la chaîne a deux chaînes parlementaires. Alors, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Alors, il y a des débats depuis des années qui parlent d'une fusion des deux chaînes parlementaires. Je pense que c'est un débat dont on se fout pas mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Parce qu'en réalité, LCP et Public Sénat partagent déjà le même canal TNT. Le canal 13 de la TNT est partagé entre LCP et Public Sénat. Ils ont une grille commune, donc ils font des switches d'antenne entre l'un et l'autre en permanence. Un peu sur le même mode de fonctionnement que peut avoir un France Info avec les décrochages régionaux et la radio. Enfin, ouais, je ne rentre pas dans le détail. Donc, bref, de fait, on a un seul canal TNT parlementaire. Et par contre, il y a deux rédactions différentes. Une au Sénat, une à l'Assemblée nationale, qui couvrent des travaux différents. 15 millions plus 17 millions, c'est déjà pas mal pour intéresser les citoyens. Ce serait mieux si ça intéressait les citoyens, du coup. Parce que donc LCP et Public Sénat ont été créés en 2000. En 2000, en l'an 2000, donc en 99-2000, on commençait à émettre à ce moment-là. Les réseaux TNT sont arrivés avec leur généralisation sur tout le territoire au milieu des années 2000 à peu près. Et au même moment sont nés quelques sites internet de type Facebook, YouTube, qui, comme vous le savez, ont profondément modifié la manière qu'ont les citoyens de s'informer et de se documenter sur l'actualité parlementaire, rendant assez obsolète l'utilité d'une chaîne télé, à tel point que en 25 ans d'existence des chaînes parlementaires, on peut que constater que les rapports entre les citoyens français et le Parlement n'a pas arrêté de se dégrader depuis 25 ans. Il y a un baromètre annuel qui est fait et bon, la courbe est en descente. Depuis 25 ans, les chaînes parlementaires n'ont jamais réussi à éroder ça, malgré une augmentation constante de leurs moyens. Ils font combien d'audience? Alors c'est là que la blague est drôle, c'est qu'ils ne mesurent pas leurs audiences. LCP et Public Sénat ne mesurent pas leurs audiences. La mesure des audiences à la télévision, ça passe par un service qui s'appelle Médiamétrie, qui est payant, qui est très cher, qui est. Qui vaut ce qui vaut. Et les chaînes payent Médiamétrie pour mesurer leur audience pour une raison très simple, c'est qu'elles ont besoin d'arguments pour leurs annonceurs, pour leur vendre des espaces publicitaires. C'est normal, quand tu vends de la pub, tu dois dire au mec à qui tu vends une pub combien de personnes il va toucher avec sa pub. C'est ça que tu vends, en fait, c'est une audience. LCP puis Luxena n'ont pas besoin d'argent d'annonceurs puisqu'il n'y a pas de pub, puisqu'ils sont financés à 100% par l'Assemblée et le Sénat. Donc ça ne sert à rien de mesurer leurs audiences. Ça, c'est la raison officielle. La raison officieuse, c'est que... Comme avait dit un journaliste de Télérama un jour, il vaut mieux pas qu'ils mesurent leurs audiences, parce que sinon ça va commencer à se voir. C'est, voilà, c'est la version un peu dure qui explique pourquoi LCP et Puyxena ne mesurent pas leurs audiences et qu'ils ont franchement pas intérêt à le faire. Ils le font ponctuellement. Sur certaines émissions, sur certaines soirées prime, sur certains docus, etc. Ils le font ponctuellement. C'est quelle courbe qui baisse selon si c'est pas les audiences? Non, la courbe dont je parlais tout à l'heure, c'est la courbe d'adhésion des Français au travail des parlementaires. La crise de la démocratie, tout ça, les Français n'ont jamais été aussi critiques vis-à-vis de la vie politique. Et la cote de confiance des Français vis-à-vis du Parlement, Assemblée nationale comme Sénat, est en recul constant depuis 25 ans. Plus qu'avoir une chaîne, il semblerait important qu'il existe des équipes qui filment et documentent le travail du Parlement. Bah, ils le font, enfin, ça fait partie des missions d'LCP et de Public Sénat. Mais vous ne le regardez pas. c'est pas. Le problème, c'est pas. Les rédactions d'LCP et de Public Sénat sont des très bonnes rédactions. Moi, pour avoir travaillé pendant 4 ans avec la rédaction de Public Sénat, ce sont des très bonnes rédactions. Hein. Leurs journalistes sont hyper compétents, hyper volontaires. LCP aussi. C'est pas du tout une remise en cause du fond du travail de leurs équipes. Hein. Je serais curieux de voir les audiences sur les débats sur les retraites. Alors, ils font des très très bonnes audiences quand il y a des actualités au Parlement qui sont très lourdes. Public Sénat avait fait les meilleures audiences de son histoire au moment de l'affaire Benalla, ce qui n'est pas étonnant. Il y avait une commission d'enquête, etc. Là, les débats sur les retraites, ça a très très bien marché, leurs audiences télé. Ça veut dire quoi, bonne audience pour LCP? C'est quand tu dois dépasser 300 ou 400 000 téléspectateurs, je pense. Donc c'est 0,x% de part d'audience. Quand tu déplaces l'audience de Jean Massier. Alors, ça n'a rien à voir parce que moi je suis sur Internet, donc on peut pas comparer les audiences télé, les audiences web, ça n'a pas beaucoup de sens. Ou alors il faudrait regarder les vues uniques. Mais moi je compare pas, enfin ça n'a aucun sens de comparer. Moi par contre je compare mes audiences Internet avec les audiences Internet d'LCP et Public Sénat, oui. Parce que là on peut se comparer, mais je compare pas avec la télé, ça n'a pas beaucoup de sens. Puis j'ai pas 30 millions d'euros de budget moi. Puis si j'avais 30 millions d'euros de budget, il est hors de question que je claque 14 millions d'euros par an dans l'infrastructure de diffusion. C'est certain. C'est pas l'engagement, la mesure d'audience sur Internet maintenant? Non, non, l'engagement, c'est ça. Enfin, l'engagement, ça a du sens sur des publications que tu peux retrouver sur des sites de blogging ou Twitter, Facebook ou ce genre de site-là, mais ça n'a pas de sens sur Twitch, l'engagement. Ça n'a pas beaucoup de sens sur YouTube non plus. La polarisation des débats fait beaucoup de tort aux citoyens lambda qui sont finalement plus pondérés et la défiance grandit. Bah, c'est aussi ça l'enjeu, c'est-à-dire que, encore une fois, Public Sénat et LCP n'ont pas d'objectif d'audience. Comme dirait encore une fois un journaliste chez Télérama, encore heureux. ça tombe bien. Non, ils n'ont pas d'objectif d'audience. Ils sont pas là pour faire de l'audience. Ils sont pas concurrents de TPMP, des chaînes d'infos en continu qui font du drama, etc. C'est pas du tout leur objectif éditorial. Mais la question de rapprocher les citoyens des chambres parlementaires et de leur travail et des élus, renforcer, enfin vivifier le débat démocratique, etc., ne se lit pas simplement à l'aune de l'audience que tu fais sur des débats parlementaires. Et effectivement, faire des très bonnes audiences à des moments comme dans le débat sur les retraites, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur moment de faire de l'audience. Je reviens à ce que je vous disais vendredi, je ne suis pas persuadé que les députés offrent le meilleur visage du débat parlementaire dans ces moments-là. Alors c'est sûr, ça fait plus de vues que quand les députés trouvent un compromis sur le financement des crédits, sur le handicap à l'école, en commission des finances. Là, c'est sûr, ça fait moins d'audience. Voilà. C'est vendu combien en moyenne une émission talk d'1 heure chez Public Sénat? J'en sais rien. Enfin, moi je sais pour les émissions que je leur ai vendues, mais c'est pas comparable avec un talk à la Baxi, c'est pas comparable avec ce qu'ils produisent eux-mêmes, parce qu'ils font de l'autoproduction, évidemment. LCP et Public Sénat, ils ont leur propre plateau de tournage, qui sont respectivement au Sénat et à l'Assemblée. Et ils en ont deux en l'occurrence au Sénat. Donc c'est la différence entre ce qu'on appelle les prods internes et les prods externes. Tu peux acheter des programmes à d'autres ou tu peux autoproduire, faire toi-même. Il y a trop de lois, on n'y comprend plus rien, faut faire du ménage. Ouais. Après, c'est pas parce que tu comprends pas une loi que c'est pas une loi utile. Les plateaux sont sur place? Ouais. Les plateaux sont sur place. Il y a un plateau au sous-sol du Sénat et un plateau au sous-sol de l'Assemblée. Alors, c'est des plateaux minuscules. C'est vraiment microscopique. C'est un peu l'enfer, leur plateau. Ils ont aucun recul. Enfin, c'est vraiment très compliqué. On est dans une société du spectacle, un débat calme et apaisé, aussi pertinent et construit soit-il, intéresse personne, regarde les audiences de TPMP. Oui, après, si tu regardes TPMP, enfin, faut pas comparer TPMP avec ce que ça n'est pas, tu vois. Moi, je fais des très bonnes audiences sur Twitch, sur des questions de fond, sur des débats, techniques, sur des sujets d'actualité. Tu vois, si je fais entre 2 et 5 fois plus d'audience qu'LCP et Public Sénat sur Internet, c'est la preuve que c'est une question de traitement. C'est pas qu'une question de fond. Vif, c'est ce soir, c'est dans l'air. Ouais, la prog de France 5 est pas mal. Bon, après, ouais, le problème, c'est que je regarde tellement plus la télé depuis tellement longtemps que j'ai complètement perdu l'habitude de la grammaire télé et qu'elle me sort par les trous de nez à chaque fois que je la regarde. Parce que je suis plus habitué. Donc j'ai, ouais. Du coup, attends, j'ai encore regardé un docu. Bah, c'était le très bon docu là sur Amber Heard et Johnny Depp. Et pareil, j'ai tellement habitué à regarder de la vulga sur YouTube que j'en perds la grammaire documentaire. C'est tellement codé, c'est tellement codifié. Avec cette voix d'homme là qui te parle sans jamais te présenter, sans jamais dire bonjour, sans jamais s'adresser à toi. Une espèce de, je sais pas, didascalie suspendue dans le temps comme ça. C'est extrêmement froid. C'est fait pour, hein. Il y a une froideur qui est cherchée, mais qui est censée créer de la distance et de la hauteur. Alors le problème, c'est que du coup, ça. C'est un narrateur. Ouais, c'est ça. Non, non, mais c'est la narration documentaire qui n'a pas bougé depuis les années 60. C'est toujours la même. Toujours, mais c'est de la télé. Hein. Après, ils sont dans des carcans éditoriaux spécifiques, particuliers. Tu sais, on apprend ça à l'école. Hein. Il y a des gamins qui payent des milliers d'euros chaque année pour qu'on leur apprenne à faire des trucs chiants comme ça. Très bien. Donc, c'est une grammaire très spécifique que moi, je supporte plus. Mais c'est parce qu'encore une fois, c'est pas une critique de cette grammaire-là. C'est juste que moi, je suis sur Internet depuis tellement d'années que maintenant, je suis juste habitué à autre chose, c'est tout. Pas grave. Moi, c'est surtout les pubs qui apparaissent n'importe quand. Ah bah ça, ouais. À la télé, il y a entre 6 et 10 minutes de pub par heure sur les chaînes qui comprennent de la pub. On se plaint de la pub sur Twitch et à la télé, mais c'est que dalle. Et sur YouTube, mais c'est que dalle, hein. À côté de ce qu'on a à la télé. Et encore en France, on n'est pas trop mal loti en pub TV. Ouais. Douze minutes par heure. Alors je crois qu'ils sont en cours de négociation pour passer à 12 minutes par heure, je crois. YouTube quand même. Bah je sais pas, regarde les pubs sur YouTube, elles durent combien de temps? Entre 12 et 30 secondes, je crois. Ça dépend ce que tu regardes sur YouTube, mais bon. C'est plus ou moins que maintenant 12 minutes par heure. C'est plus que maintenant. YouTube Premium Life. Bah ouais, moi pareil, je suis passé sur YouTube Premium, donc Twitch Turbo Life. J'ai pas Twitch Turbo, je crois pas. Est-ce qu'on est obligé? Est-on obligé, est-ce une bonne chose de comparer les deux? Ce sont des médias ne fonctionnant pas de la même manière, touchant des audiences différentes. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. La télé et Internet ne sont pas comparables. Il n'y a pas de. C'est tellement différent que ça n'a pas de sens. Et moi, je suis le premier à passer mon temps à me battre pour expliquer, notamment aux vieux journalistes quinquagénaires, qui me posent des questions sur Brexit. Leur expliquer que faut arrêter de chercher à comparer, ce qui n'est pas comparable. C'est pas nécessaire, ça sert à rien, ça ne dit rien à personne, c'est même pas utile. Donc faut pas mesurer les audiences de la même manière, faut pas regarder les émissions de la même manière, ça ne s'inscrit pas du tout dans la même habitude de consommation, dans le même rapport au public, dans la même méthode de production, etc. Ça n'a aucun sens. Donc non, je suis d'accord avec toi. La télé, c'est la propagande, Internet, c'est la liberté. Y en a qui disaient ça en l'an 2000. Bon, 25 ans plus tard, disons que le dénouement ne donne pas forcément raison à cette analyse. On est presque, ouais, allez, presque. Allez, on va dire presque. La télévision reste une rêve pour beaucoup de monde. Il suffit de voir les plus gros youtubeurs quand ils veulent faire des grands trucs. Ça part toujours sur des trucs style TV boomer. Ouais, je sais pas ce qui te fait dire ça. Mais la télévision reste une référence, hein. Il s'agit pas de. Alors, il y a des différences de génération assez clairement, mais pour autant, la télévision, est en perte de vitesse, ça se voit par un raccourcissement de la quantité de contenu télé consommé par jour, un vieillissement de du téléspectateur moyen et un taux d'équipement qui est réduit. Mais ça reste de très très loin le média de masse en France, loin, très très loin devant Internet, YouTube, TikTok, Instagram et Twitch. Très très loin. Donc oui, les médias web est en croissance depuis des années, le média télé est en descente depuis des années, mais les courbes sont très 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 loin de se croiser. Donc il ne faut pas faire l'erreur de regarder les dynamiques et d'en tirer des conclusions tout de suite. La télé reste le média majeur en France. Tu fais beaucoup plus d'audience en faisant un 20h de France 2, enfin je parle de la politique là pour le coup, en faisant une émission politique sur France Télévisions ou sur TF1 qu'en allant sur Internet. Mais encore une fois, je le redis, l'un ne va pas remplacer l'autre. Internet est aussi moins accessible pour les personnes âgées, il faut le prendre en compte. Alors parfaitement, c'est parfaitement vrai. Il y a une fracture générationnelle et une fracture sociale de l'accès à Internet qu'il faut surtout pas négliger. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Après, c'est de moins en moins vrai aussi parce que il y a eu des enquêtes passionnantes sur le Covid. Le Covid a eu un effet très important sur les personnes âgées. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes âgées se sont mises à Internet avec le Covid. Il y a beaucoup de personnes âgées qui se sont mis à télécharger des applications sur leur smartphone, à acheter un iPad, soit pour parler en visio avec leurs petits-enfants, soit pour jouer à des jeux, des mots fléchés et tout. Alors il faut pas comparer la pratique web d'une personne âgée et celle d'un adolescent, mais une personne de plus de 70 ans qui achète un iPad pour jouer aux mots fléchés dessus, c'est déjà un pas fait en direction de... d'Internet, quoi. Ça explique tous les vieux sur les groupes complotistes Facebook. Ah bah ça. Le Candy Crush de Mamie Janine. Ben ouais, bien sûr. Et c'est très bien. C'est très très bien. Mon grand-père a 80 ans, il passe sa vie sur YouTube, ça me fume. Moi, bah, je trouve ça trop bien, hein. J'ai été annonceur TV, le web c'est tellement mieux quand tu cherches du ROI. Pour le reach, je dis pas, et encore. Ah bah ça. Mais c'est aussi ça, enfin, je veux dire, la question des audiences entre la télé et le web est une question intéressante. On peut en discuter pendant des heures. Moi, pour moi, ce qui pour moi est la métrique la plus intéressante pour montrer une mutation profonde, c'est les budgets de prod. En fait, ce qui est en train de changer, c'est ça. C'est pas du tout. Les audiences, c'est très sympa, mais. Le budget annonceur pour les campagnes web est en train de devenir de plus en plus important. Le budget annonceur pour les campagnes TV est en train de réduire. Alors encore une fois, ça dépend des campagnes. Si tu veux faire des annonces pour les Montescaliers Stana ou pour l'eau Rosanna, t'as intérêt à continuer à le faire à la télé. En revanche, il y a de plus en plus de marques qui ne mettent plus un euro dans des campagnes radio et télé et qui se dirigent directement vers des campagnes influenceurs ou des campagnes web. Et ça se ressent directement sur des producteurs de contenu comme moi ou comme d'autres youtubeurs. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire des émissions comme Backseat, comme Popcorn, GP Explorer, etc. C'est que l'investissement de production sur Internet est en train d'exploser, alors que l'investissement de production à la télé n'arrête pas de réduire. Donc tout le pognon qui manque à la télé, c'est nous qui sommes en train de le récupérer, on en est très content, hein. C'est pour ça que c'est important que la télé continue à être nullissime sur Internet. Ça nous convient très bien à nous, hein. Continuer à faire de la merde, hein. Bon, pour Backseat, on attend toujours le sponsor. Ouais, moi aussi. Ça prend du temps. À part Arte. Ouais, alors Arte, ils sont quand même en train de réduire leur budget prod sur Twitch, hein. Ça me fait chier, mais bon. Jamais vu de pub NordVPN à la télé. J'ai vu sur TF1 l'autre jour, j'étais choqué. Sérieux, NordVPN passe à la télé? Samuel Etienne sur Twitch, c'est pas rien. Bah ouais, mais Samuel Etienne ne vient pas sur Twitch pour y faire de la télé. Tu vois, c'est ça aussi, et c'est ça aussi qui pour moi explique le succès de Samuel, et c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est que Samuel vient sur Twitch pour faire du Twitch. Il a compris ça. Et c'est très très cool que Samuel ait réussi à avoir un sponsor France Télévisions pour son émission L'Hebdo Étienne. Je trouve ça très cool. Mais je pense qu'il n'a pas envie d'être le streamer de service de France Télévisions. Pourquoi tu fais de la télé sur Twitch, toi d'ailleurs? T'as déjà réussi à poser une question à un présentateur télé comme ça? Il est où le chat à la télé? Explique-moi. Est-ce qu'il y a des émissions TV ou Internet qui t'ont inspiré pour Backseat? TV, non, aucune. Vraiment pas. Voire même au contraire. Moi, j'ai pris le contre-pied assez souvent. Internet, oui, je me suis beaucoup inspiré de Popcorn pour l'ambiance. Je me suis beaucoup inspiré des talks e-sport que tu peux trouver sur OTP ou sur OGaming par le passé. Il y a un petit côté Zach en roue libre. Après, moi, je suis tellement tout seul à faire ce que je fais depuis longtemps que ça fait longtemps que j'ai inventé mes propres manières de faire. Enfin, tu vois, c'est il y a un petit côté sui generis, quoi. Mais bon, comme ça fait 7 ans que j'essaye des trucs, ça fait 7 ans que j'ai eu le temps de faire toutes les erreurs, de tenter des trucs, d'essayer autre chose et tout. Donc, et je continue. T'as tout pompé sur le talk d'Hugo Décrypte. Tu veux dire le talk qu'il a lancé après moi? Oui. Salut Jean, si je veux venir sur place pour Backseat, comment je sais s'il y a encore des places disponibles? Regarde, c'est très simple. Tu vas sur utip.io/JeanMassier, tu vas dans Shop, et là tu regardes les endroits où il y a encore des places disponibles. Jeudi, je crois que c'est complet. Ouais, c'est complet jeudi. Eh ouais. Eh ouais, c'est complet. Dommage, il fallait acheter sa place plus tôt. Mais tu peux acheter. Regarde, il reste des places là. Il reste des places là. Voilà. Donc tu choisis ta date. 9 mars, 2 mars, 16 mars. On met les dates au fur et à mesure. En général, il y en a toujours 4 d'avance. Tu t'es pas inspiré de Quotidien pour la saison 2 de Backseat avec l'enchaînement de chroniques? Non. Non, franchement pas. Non, puis leur Quotidien, ça a vieilli, je trouve, Quotidien. En termes de rythme, en termes de plateau, en termes de. Alors je crois qu'ils ont un peu arrêté les cartons. Vous savez, les cartons de Quotidien, là, quand ils parlent, ils sortent un carton avec une photo dessus ou un mot ou un truc comme ça. C'était plutôt innovant il y a 10 ans. Mais l'année dernière, j'ai vu qu'il le faisait encore. Je lui disais, oh non, les gars, arrêtez avec ça. Après, ça dépend. Non, mais ça dépend. Quotidien, ils ont des séquences cool. Ils ont des. Je sais pas. Pareil, c'est de la télé. J'ai beaucoup de mal. Avec la cagnotte actuelle, combien de Backseat sont financés? On va faire un point bientôt là-dessus. On est encore en train de faire des calculs. Non, mais Quotidien, moi j'ai beaucoup de respect pour Yann Barthès et pour le travail qu'il fait depuis des années parce qu'il a au moins le mérite de rafraîchir, enfin, d'avoir rafraîchi la vieille télé. Et ça, c'est cool, on lui doit ça. Après, je trouve que ça vieillit, mais bon, c'est aussi moi qui vieillis, hein, faut pas leur en vouloir à eux. Est-ce que on peut m'expliquer en quoi consiste l'émission Backseat SVP? Alors tu peux aller sur YouTube pour voir de tes propres yeux à quoi ressemble l'émission Backseat, c'est encore mieux. C'est un talk show d'actualité politique, en public et en plateau, sur Twitch, tous les jeudis, en direct sur ma chaîne. Tant mieux au final si l'émission ne vieillit pas en même temps que son public. Alors ça c'est une bonne question, je suis d'accord avec toi. Faut-il vieillir en même temps que son public? La question reste ouverte. Si t'es malade, on te remplace. Sur Backseat, non. Si je suis malade, on annule l'émission. Ne pas confondre s'améliorer et vieillir. Non, non, je suis d'accord avec toi. Mais faut-il suivre la montée en âge de son public? On se souvient que fut un temps lointain, TPMP était une émission relativement sérieuse d'analyse de la télé. Oui. Que sera Backseat dans 5 ans? J'en sais rien. Il faut suivre les hypes, les tendances, le reste se fera tout seul. Faut-il suivre la hype et les tendances? Mais ça, c'est une vraie question, hein. Nous, on est nombreux sur Internet, sur YouTube, sur Twitch et tout, à se poser la question de savoir est-ce qu'il faut suivre la tendance pour suivre la tendance. Moi, parfois, j'ai l'impression d'être un vieux con parce que je fais partie de ceux qui disent « Bah non, en fait, la tendance pour la tendance, genre si ça me plaît pas, si c'est pas ce que j'ai envie d'offrir à mon public, je vois pas pourquoi je le ferais. Est-ce que le but, c'est de faire de l'audience? Est-ce que le but, c'est de faire du pognon? Est-ce que le but, c'est d'être pertinent? Est-ce que le but, c'est de... » Enfin, tu vois, toutes ces questions-là sont des bonnes questions, hein. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple. J'aime beaucoup ce que fait Squeezie. Je commence vraiment à trouver Squeezie extrêmement intéressant, créatif, innovant, à chercher des concepts débiles mais très bien réalisés. Squeezie me plaît de plus en plus. Mais aussi parce que Squeezie a beaucoup mûri dans sa manière d'aborder son propre travail, tu vois. Il y a une époque, je ne le regardais pas du tout, et Squeezie, pour moi, c'était vraiment un animateur pour adolescents. Enfin, c'est pas mon truc, et c'est pas grave. Enfin, c'est un mec qui ne s'adresse pas à moi, c'est pas grave. Il a le droit de s'adresser à des gens qui sont plus jeunes que moi, pas de problème, etc. Bon. Mais là, il se trouve que depuis quelques années, je trouve que... Je ne sais pas si ça s'adresse à moi de plus en plus, ou si c'est moi qui deviens de plus en plus jeune, j'en sais rien, mais je trouve ça bien, ce qu'il fait. J'aime bien. C'est rythmé, c'est cool, ça va dans le bon sens. Bon, bah, ça me plaît. C'est un divertissement qui me plaît beaucoup. Cyprien, j'adore depuis le début, et moi je trouve Cyprien, c'est un mec qui mûrit énormément. J'ai beaucoup de respect pour Cyprien, pour la manière qu'il a de mûrir et de chercher à toujours faire des trucs qui lui plaisent à lui. Et ça, c'est pour le coup, je m'inspire beaucoup de Cyprien pour ça. Alors il se lance du coup dans des projets qui marchent plus ou moins bien, et j'ai l'impression que ça lui pèse un peu parfois. Et j'en suis désolé pour lui, mais du coup, je m'identifie pas mal à Cyprien, quoi. Parfois, tu lances des projets, et le public suit pas, alors que toi, ça te tient à cœur, tu vois. Mais j'aime bien ce que fait. Mais moi, Cyprien, j'aime bien ce qu'il fait depuis le début. Je trouve qu'il est très bon délire, qu'il va dans le bon sens, qu'il est smart, il essaye pas d'être ce qu'il est pas et tout. Enfin, j'aime beaucoup Cyprien. Enfin, bref, donc voilà, je prenais l'exemple de Squeezie sur des mutations de contenu. Il se trouve que moi, j'aime bien. Après, il y a des trucs que je regardais quand j'étais plus jeune, que je regarde plus maintenant, et je leur en veux pas de continuer à faire ça. C'est juste que j'ai grandi, je fais autre chose, je regarde autre chose. Bon, bah, c'est moi qui ai grandi, c'est pas eux qui ont changé. Pas que je leur en veuille non plus, quoi. Le monde ne tourne pas autour de mon nombril, finalement. Nota Bene a une manière intéressante de gérer ses chaînes. Nota Bene, pour moi, c'est le meilleur vulgarisateur de YouTube. Enfin... Non pas que j'ai envie de mettre la hiérarchie entre les vulgarisateurs, mais en tout cas, moi qui ai un point de vue prod derrière, j'ai énormément d'admiration pour Ben, pour son travail, pour sa structuration de projet, pour... Il a une capacité hors norme à fournir un travail d'une qualité incroyable, irréprochable, à gérer sa vie derrière, familiale, personnelle et tout. J'espère que ça se passe bien pour lui, etc., avec Kali et tout. Mais enfin, je... Il est bluffant de compétences, de savoir-faire, d'organisation, de qualité de production, d'écriture, de travail en collaboration, etc. Et de régularité. Ben, c'est force le respect. Et pourtant, moi, je le connais depuis très très longtemps. Je sais pas si c'est sur lui que j'aurais spontanément parié, tu vois. Pour ma part, c'est le contraire. J'ai regardé Squeezie quand j'étais jeune et maintenant je le regarde pratiquement plus. Bon, bah, tu vois. Tu vois. Donc, bref, donc tout ça pour dire que c'est une question qui nous. Qu'on est nombreux à se poser, bah, il y avait la vidéo avec Mr. Fox et sur la chaîne de Bolche Geek sur le YouTube Ciné, où il s'interrogeait sur où va le YouTube Ciné. Alors c'est un peu spécifique comme question, mais c'est une question qui était un peu plus large sur la création de contenu sur Internet. Est-ce que notre job c'est de suivre la tendance? Est-ce qu'on a vocation à suivre la tendance? Est-ce que le but c'est de faire de l'audience? Est-ce que c'est à ça qu'on mesure l'intérêt de nos chaînes? Est-ce qu'on peut faire semblant et dire que l'audience n'a pas d'importance? Évidemment. Tel un vieux con de Télérama. Ce qui compte, c'est la qualité du contenu. C'est pas le nombre de téléspectateurs. Je veux dire. Oui, alors, c'est vrai. C'est plus facile quand c'est pas ton pognon. Quand ça devient le tien, tu te rends compte que c'est un chouïa plus compliqué que ça. T'as une dent contre Télérama? Non. Non, j'ai pas de dent contre Télérama. Ils ont complètement raté le virage Internet, mais je peux pas leur en vouloir. Ils ont un savoir-faire qui est pas là. Ils essayent pourtant. Hein. En fait, si, Télérama, ils s'en sortent très bien quand ils recrutent des journalistes qui bossent bien. Mais en général, ils restent pas longtemps. Ils vont faire carrière ailleurs. Bah tiens, comment il s'appelle, Vincent, il avait pas bossé avec Télérama? Le Vincent Manilev. King Vincent. Je me souviens plus. Combini, Libération, Slate, Lina, Radio France. Mais bon, les rares journalistes de Télérama avec qui j'ai eu l'occasion de discuter ces derniers temps m'ont pas renvoyé une image de fine connaissance de ce que c'est que la production audiovisuelle en 2023. Bon, à la télévision peut-être, mais je sais pas, ça m'intéresse pas. Sur Internet. Mais c'est pas grave en même temps. Suis pas sûr que le pognon est un critère pour quelqu'un qui défend certaines valeurs. Pour un moine qui a fait vœu de pauvreté, non, effectivement, le pognon n'est pas en soi une bonne mesure du succès. Me souviens, c'était mon prof d'éco au lycée, quand il faisait grève et tout. Du coup, on discutait de la grève. En plus, il était prof d'éco, donc ça avait du sens, tu vois, on discutait de ça. Et il disait qu'il n'était pas assez payé, machin, et il y avait des élèves qui lui disaient, ouais, enfin, en même temps, c'est un métier que vous faites par vocation, vous le faites pas pour l'argent. Et lui, il répondait, alors t'es gentil, j'ai pas fait vœu de pauvreté non plus, hein. Il y a une différence entre savoir pertinemment qu'on signe pour un travail qui va pas nous rendre riche et faire vœu de pauvreté. Enfin, tu vois, c'est pas la même chose. Je trouvais ça très drôle. J'aime bien la réponse. J'ai pas fait vœu de pauvreté. Hein. C'est pas parce que t'es en haillon, en sandales et que tu vis dans un tonneau que t'as une grandeur d'âme. <Tu vois. rire> Et je trouvais ça très drôle. Donc oui, vive l'engagement. Vive l'engagement. Vive les valeurs, comme on dit. Mais, enfin, ça va, quoi. Pas déconner non plus. Les gens qui te renvoient l'argument métier passion, c'est hallucinant. En archéologie, on a tout le temps ça. Genre, on fait un métier qui nous plaît, on n'a pas le droit de se plaindre. Oui, c'est ça. Eh oh, c'est votre truc de gratter des cailloux, hein. Visiter des champs et des sous-bois avec des pinces à épiler, c'est votre truc. Alors, vous avez pas demandé de l'argent non plus. Donc voilà. Non mais bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, effectivement, quand t'as des valeurs, quand t'essayes de faire coïncider à peu près autant que possible le fait de faire du contenu pas complètement débile, etc. Et bah tu vois, mais c'est la tension qu'on a quand tu fais de la vulgarisation sur Internet. C'est normal que tu te poses ce genre de questions en disant bon. Ok, je veux pas, je cherche pas à faire un max d'audience, parce que si je cherchais de l'audience, bah je ferais pas de la vulgarisation, je ferais de l'humour, je ferais du drama, je ferais du react sur Twitch avec des titres en majuscules, je ferais de la merde quoi. Ça marche pour l'audience. Mais bon, est-ce que pour autant le fait de pas faire d'audience et crier surtout, ouais, c'est ça. Est-ce que le fait de pas faire d'audience est du coup une marque de succès? Bah, peut-être pas non plus. Enfin, tu vois, c'est bien aussi de. Enfin, c'est bien de faire de la vulgarisation qui est vue par les gens. Pas du coup. Donc, bon. Salaud, tu as commencé à streamer pendant le Covid, ou après ou avant? Comment ça, salaud? T'as voulu écrire salut et t'as appuyé sur O à la place de U? T'es sûr? Salut. Ah bon, d'accord. Alors déjà, bonjour. J'ai commencé à streamer en 2015, après Jésus-Christ. Donc si tu veux, ça remonte un peu avant le Covid, ouais. Fait quelques années quand même. Donc bref, donc la vulga c'est bien, l'audience c'est mieux, enfin c'est mieux, c'est bien si c'est une audience qui a du sens, tu vois, c'est toujours pareil. Moi je vais vous donner un exemple, qui vaut ce qui vaut, mais c'est ma gueule, moi ma petite gueule. Backseat la semaine dernière, on n'était pas en homepage sur Twitch, donc c'était une audience purement organique, comme on dit. On a fait 5 500 viewers en pic. 5 500 viewers, c'est pas la meilleure audience de l'année. C'est pas grave, ça arrive. C'est la plus basse. Bon. 2 jours plus tard, vendredi, en direct de l'Assemblée nationale, j'étais en pyjama chez moi. On regardait des députés se foutre sur la tronche dans une des séances les plus bordéliques de l'histoire de la Ve République. Autant vous dire que mon apport en termes de vulga n'était pas énorme à ce moment-là. C'est pas le moment où j'ai été le plus utile aux travaux parlementaires. On est monté à 15 000 viewers. Très bien. C'est toujours 3 fois plus que l'Assemblée que LCP, mais. Donc tant mieux. Le truc, c'est que bon, quand je fais le bilan le week-end, quand je suis allongé sur mon lit en regardant le plafond, au moment où je remets en question tous mes choix de vie, je me dis, bon, ça fait un peu mal au cul de faire 5 000 viewers sur une émission que je produis de A à Z tout seul comme un grand, avec mes petits moyens, en prenant tous les risques, avec les équipes et tout, on met du cœur à l'ouvrage. Et qu'un putain de drama à l'Assemblée, on fait 15 000 viewers. Ouais, c'est pas un reproche que je me fais ou que je vous fais, ou c'est pas comme ça qu'il faut le prendre, mais vous comprenez que je suis fort, je peux pas faire autrement que mettre en parallèle les choses. Donc c'est pour ça qu'il faut faire gaffe aussi, faut que je fasse attention à pas me mettre trop de la pression, faut se détendre, faut pas que j'en fasse des caisses non plus. C'est normal de pas faire autant d'audience sur une émission dans laquelle on interview Aurélien Pradier, que personne connaît, ou pas grand monde en tout cas, en dehors de mon petit cercle à moi de passionnés de politique machin, dans lequel on parle de urbanisme et projets architecturaux des années 60, versus une émission dans laquelle est en train de se jouer sous nos yeux une des lois les plus contestées de ces 10 dernières années, que l'avenir du quinquennat d'Emmanuel Macron se joue en partie à ce moment-là, avec des millions de manifestants dans les rues, etc. Donc faut pas... Faut que je fasse attention à la comparaison entre les deux. Il faut pas que je fasse l'erreur de croire que Backseat peut spontanément, naturellement et organiquement aller chercher autant d'audience qu'un truc dramatique à l'Assemblée nationale où moi je serais le premier à avoir envie de regarder, etc. Donc c'est normal, c'est pas grave, faut se calmer. Le contexte est pas le même, le contenu est pas le même, l'ambiance est pas la même, c'est pas pareil. Et là, 4400, bravo, prochain backseat, ça stonk. Ou pas. J'en sais rien, on verra. Donc bref, tout ça pour dire que, encore une fois, et j'en reviens à ce que je vous disais sur l'importance de l'audience par rapport à l'impact qu'on a sur les gens, moi, je fais de la vulga, enfin, j'essaye, j'improvise. Je fais de la vulga et je me dis que, moi, la mesure du succès, de la performance, on va dire, ça fera plaisir aux investisseurs. Le mesure de la performance, pour moi, c'est l'utilité que ça a. Et l'utilité que ça a, je le mesure à est-ce que ça change le rapport des gens à la politique. Il y a plein de gens qui, sur ma chaîne, découvrent la politique, apprennent à un peu mieux l'appréhender, et ils deviennent de plus en plus intéressés par l'actualité politique, la suivent, et petit à petit se forgent une opinion, etc. C'est ça le but que je me suis donné. Donc tant mieux. C'est que ce que je fais a un impact sur les gens. Si je faisais de l'audience à balle, mais que je ne faisais que renforcer les gens dans leur approche de la politique, bon bah ça me ferait chier, je me dirais bah, en fait je sers pas à grand chose. Ok, je fais des centaines de milliers de vues, mais en fait qu'est-ce que ça change? Donc c'est pour ça que les trucs à la quotidien où on fait des blagues, où on se moque des politiques, et c'est très bien de se moquer des politiques, attention hein, Je suis pas en train de faire un plaidoyer anti-caricature, anti-humour, etc. Au contraire, c'est très bien, chacun son job. Mais la petite séquence de quotidien qui fait marrer tout le monde, où on se moque des politiques, parce qu'ils parlent bizarrement et tout, est-ce qu'elle va dans un sens... Est-ce qu'elle a un impact positif sur les gens? J'ai pas l'impression. Donc bref. Donc, tout ça pour dire, et je reviens... à ce que je disais, que c'est très bien de faire 15 000 viewers sur des débats à l'Assemblée nationale, si ça permet à des gens de découvrir la politique, de s'y intéresser et de venir regarder l'émission Backseat suivante. Très bien. C'est pas antinomique du tout, au contraire. Impact positif de quotidien, tu retiens le nom des ministres et tu sais qui est au gouvernement. Eh bah très bien. Et comme ça, après, tu viens les voir sur Backseat en disant, mais tiens, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Non, mais très bien, let's go. Donc, c'est très bien. Et pourquoi on avait cette discussion déjà? Je sais plus. T'es vraiment personne sur Backseat, ce serait pas pareil, mais c'est vraiment pas Backseat non plus. Ce serait pas Backseat non plus. Oui, voilà. C'est trop tôt, Backseat. Comment ça, c'est trop tôt? 19h à 22h, c'est trop tôt? C'est chiant. Je peux pas inviter un politique à plus de 22h, moi. Hein, Est-ce que tu as déjà reçu des ministres sur Backseat? Oui, plusieurs fois, oui. Après, la moitié de l'émission, c'est Adèle plus Vincent plus Quiz. Ah, on va relancer le débat. La France est coupée en deux. Il y a ceux qui détestent les moments un peu détente de Backseat, et il y a ceux qui détestent les moments un peu sérieux de Backseat. Du coup, on fait comment? Comment on fait? On peut pas satisfaire tout le monde, du coup on déçoit tout le monde, c'est ça? C'est ça que vous me dites? Moi je déteste tout Backseat. Voilà, bah voilà, ça c'est mieux. Ça je préfère comme. Moi je déteste Backseat de A à Z. Si, y a que la pause que j'aime bien. Deux émissions. Oh non. 2 heures de générique. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Il y a des gens qui. Voilà. Mais c'est à chaque émission, hein, à chaque émission, il y a des gens qui me disent c'est très bien Backseat. Par contre, ce serait bien que tu supprimes toutes les chroniques de l'émission, que tu ne parles que du matérialisme historique pendant 2h30, sans coupure, sans jamais couper la parole à l'invité. Il faudrait que tu invites Frédéric Lordon, que tu lui laisses la parole, que tu dises rien pendant 2h30. Et ça, ce serait une super émission Backseat. Du coup, en général, je leur dis, bah, je sais pas, t'as essayé de taper Frédéric Lordon sur YouTube? Parce que là, t'en as des vidéos de 2h30, hein, c'est très bien. Hein. Il y en a qui me disent j'aime bien Backseat, mais je coupe le son, sauf quand c'est Usul qui est à la caméra et là je rallume le son. C'est bien, je n'hésite pas à regarder ce qu'il fait sur Internet, Usul c'est bien aussi. J'adore aussi, hein. Mais bon, si tu veux voir que lui, s'il y a que lui qui t'intéresse, bah, voilà. Suis-le sur Twitter, moi j'aime beaucoup, hein. Moi je suis fan depuis très longtemps d'Usul, vas-y. Voilà. Et puis il y a les autres qui me disent. Moi, ce que j'aime dans Backseat, c'est que quand vous faites des blagues, les chroniques et le quiz à la con, le reste, ça me fait chier, j'écoute pas. Bah, très bien. Bon, bref, je rigole, mais vous avez compris que c'est normal, on peut pas plaire à tout le monde. Mais on plaît quand même à beaucoup de monde, et ça, c'est cool. Et merci en vrai, hein. Je rigole, mais je suis pas en train de me plaindre de vous, hein. MDR, ça va que Jean est pas susceptible. Qu'est-ce que t'en sais que je suis pas susceptible? Faut revoir le crowdfunding, mais donné. On va revoir le crowdfunding, ouais. On va revoir le crowdfunding. Moi, ça, si j'ai un regret sur cette saison, c'est que j'ai trop bossé sur l'émission et je me suis pas assez investi sur le crowdfunding. Et du coup, je l'ai pris un peu à la légère et ça se sent. C'est ma faute. Il va finir la soirée roulé en boule en pleurant. Or, comme tous les soirs. Non, je déconne, c'est pas vrai en plus. Non, c'est pas vrai. Mais ouais, on va revoir le crowdfunding, vous inquiétez pas. Ça me permet de reposer la question, mais pourquoi ne pas inviter l'extrême droite sur ton plateau? C'est un choix que j'ai fait. C'est un choix que j'ai fait de ne pas inviter l'extrême droite sur le plateau de Backseat, c'est un choix qui est parfaitement discutable, parce que c'est pas le choix qui est fait par toutes les émissions politiques sur Internet comme à la télévision, donc je comprends qu'on pose la question, et c'est pas grave de poser la question, et c'est parfaitement acceptable de pas avoir la même approche que moi des choses, mais l'extrême droite n'est pas un camp comme les autres dans le débat public, même s'il en a l'apparence de plus en plus, Il s'en donne l'apparence, on lui en donne l'apparence aussi beaucoup. Mais le fait est que l'extrême droite n'est pas un camp comme les autres. C'est un camp politique qui est fondé sur des valeurs de rejet de l'autre, de discrimination. Il y a différentes manières d'aborder le sujet. L'une des manières que moi je n'aime pas et que je condamne, c'est de dire qu'on peut renvoyer dos à dos finalement les personnes qui sont porteurs de la discrimination et du rejet et les personnes qui sont porteurs d'autres valeurs comme la solidarité, la fraternité, etc. C'est une question de point de vue. Moi, je refuse de mettre un signe égal entre une victime de discrimination et un auteur de discrimination. Pour moi, ça n'entre pas dans le cadre de ce qu'on appelle le débat démocratique. C'est autre chose, c'est du spectacle, c'est du divertissement, c'est du clash, c'est des trucs comme ça, mais ça ne m'intéresse pas. Et ce n'est pas du tout ce que je veux offrir sur le plateau de Backseat. Par ailleurs, Backseat est une émission qui est diffusée sur ma chaîne, sur une chaîne qui porte mon nom. Donc, je ne peux pas faire semblant de dire « oui, mais ce n'est pas moi, c'est une décision collective qui appartient à la rédaction, etc. » Mais ce n'est pas le cas. En fait, c'est ma chaîne, c'est mon nom. Donc, je suis forcé d'assumer face cam avec mon visage, mon vrai nom. Ce n'est même pas un pseudo en plus. Je suis forcé d'assumer des choix éditoriaux. Donc je ne peux pas me planquer derrière mon petit doigt. J'aurais pu, hein, mais je refuse de le faire. Et enfin, Backseat est une émission qui est diffusée sur une plateforme qui s'appelle Twitch, qui a des règles d'utilisation qui s'imposent à moi comme à tout le monde et qui font peser sur ma chaîne des risques de sanctions si jamais elles sont outrepassées, que ce soit par moi ou par quelqu'un d'autre sur mon plateau. L'extrême droite est de loin un des camps qui est le plus susceptible de franchir les lignes jaunes de ce qui est autorisé sur Twitch. Donc ce serait aussi une forme de prise de risque pour ma chaîne. Alors je pourrais me planquer derrière ça pour justifier tout et rien, mais je me planque pas derrière ça puisque je préfère assumer manière de dire que si c'était pas les règles de modération de Twitch, je prendrais quand même la décision de refuser l'extrême droite sur mon plateau. Après on peut en discuter parce que c'est quoi où est la frontière entre l'extrême droite et la droite non extrême? Et c'est une question qui est ouverte, hein, ou pour une question qui est fermée. Chacun place la ligne là où il veut. On peut en discuter. Ciotti, par exemple? Éric Ciotti a été élu président d'un parti qui s'appelle Les Républicains, qui est le parti héritier de la droite traditionnelle et du gaullisme en France depuis longtemps. Un parti qui a donné plusieurs présidents de la République au pays. Donc moi, Éric Ciotti, ça m'intéresserait de l'inviter sur le plateau de Backseat pour l'interroger sur la trajectoire de son propre parti, sur son identité politique. Compte tenu de la discussion qu'on a eue avec Aurélien Pradier, je trouvais ça intéressant d'interroger Éric Ciotti et de lui poser les mêmes questions. En lui posant la question du cordon sanitaire, en lui posant la question de la limite, en lui posant la question justement de la stratégie, du positionnement, des alliances, etc. Est-ce que Éric Ciotti pense que l'avenir de la droite en France, c'est ce qu'a fait Berlusconi en Italie, c'est-à-dire devenir un parti pivot de l'extrême droite au pouvoir ? Ça m'intéresse. C'est une vraie question que j'aurais dû lui poser. Dans un cas hypothétique où Marine Le Pen gagnait la présidentielle, est-ce que le choix éditorial serait différent? Non, ça ne changerait rien. Je me fous complètement de ce que votent les gens vis-à-vis de mes choix éditoriaux. Ça ne m'impose rien. Je suis libre de mes choix éditoriaux. Je me fous complètement. Les électeurs pourraient voter à 95% pour Marine Le Pen, ça ne change absolument rien. Je m'en ai rien à foutre. Ça change absolument rien. Ça augmenterait ton audience. Ah, ça c'est certain. Je suis absolument convaincu qu'une interview de Jordan Bardella, Marion Maréchal Le Pen, Éric Zemmour, Marine Le Pen, etc., ferait monter mon audience. Là, tu vois que je suis pas borné. Mais je joue pas à ce jeu-là. Ça m'amuse pas et j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. Mettre des nouilles dans le slip, ça augmenterait l'audience aussi, oui. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Après, ce choix éditorial de refuser d'inviter l'extrême droite, c'est un choix qui vaut sur Baxit. C'est pas un choix qui vaut dans toutes mes autres émissions. J'ai déjà fait des émissions dans lesquelles j'ai interviewé des eurodéputés du Rassemblement National, enfin du groupe. Comment il s'appelle? Identité et démocratie, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le groupe de l'extrême droite au Parlement européen. C'est un choix sur ta chaîne Twitch. Non, non, pas sur toute ma chaîne Twitch. Non, justement, ça dépend des émissions et ça dépend de leur raison d'être. Quand je fais une émission en partenariat avec le Parlement européen fait un partenariat avec moi à condition que j'applique les règles du Parlement européen dans la représentation des camps politiques dans l'émission. Parce que sinon, ils peuvent pas se permettre, le Parlement européen ne peut pas se permettre de faire un partenariat, de faire un partenariat avec moi si je leur dis j'accepte tel groupe mais pas tel autre. Donc du coup, ça fait partie du deal. Ils me disent, on demande aux eurodéputés français de tous les groupes s'ils acceptent une interview. S'ils refusent, ils refusent, mais ça, on n'y peut rien. Par contre, s'ils acceptent, ils font partie de l'interview. Et moi, j'ai dit oui. Donc, je me suis déjà retrouvé à interviewer des eurodéputés du Rassemblement national dans des émissions en direct du Parlement européen sur l'actualité européenne. Mais c'est une règle différente qui s'applique parce que les conditions sont différentes. Mais la chaîne est la même et l'intervieweur est le même, c'est moi. Si ça ne dépendait que de moi, je ferais pas ça. Mais comme ça dépend pas que de moi, j'accepte des conditions particulières. Voilà. Et ça pourrait être pareil. Mais comme Baxit, c'est mon émission, que c'est moi qui l'ai montée avec mes petits bras tout seul, c'est moi qui en décide les termes. Donc le terme, c'est celui-là. Est-ce que tu peux m'expliquer pour comment il choisit l'ordre de passage des amendements et pourquoi l'article 7 n'aurait pas pu passer avant la fin des débats? La réforme des retraites est passée par une loi budgétaire. Les lois budgétaires ont une méthode d'examen très spécifique. Et le gouvernement ne décide pas tout seul dans quel ordre est-ce qu'il met les mesures. Voilà, donc tu as ta réponse. Non, le gouvernement ne pouvait pas décider en claquant des doigts de discuter de l'article 7 avant l'article 2. Ça marche pas comme ça. Ça peut marcher comme ça sur des lois ordinaires, mais sur des lois budgétaires, c'est plus compliqué. Voilà. Et c'est même pas compliqué d'ailleurs, c'est impossible. Donc tu as ta réponse. À titre perso, je refuse au maximum le journaliste partial, n'étant pas nécessairement fixé sur l'orientation politique qui est la mienne, voire qu'un ou plusieurs partis politiques sont refusés, est une entrave à ma liberté de choisir ce qui correspond à mon âme et conscience. J'espère que chacun aura lu ce message. Ah non, mais c'est très bien. Ah non, il n'y a aucun problème, hein. C'est bien pour ça que j'ai précisé que vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec mes choix éditoriaux. Mes choix éditoriaux ne sont rien d'autre que des choix éditoriaux, hein. C'est une proposition. Dans ce vaste océan qu'est Internet, je vous propose mes plats. S'ils ne vous plaisent pas, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit. Je comprends. Comme disait un grand philosophe, faites mieux. Bon, est-ce que ce philosophe a fait mieux après avoir dit ça? L'histoire n'a pas encore tranché. Pourquoi le gouvernement a fait une loi de financement de la sécurité sociale plutôt qu'une loi ordinaire? Parce que ça l'arrangeait. De toutes les façons, il était obligé de faire une loi de financement de la sécurité sociale. La question, c'est est-ce qu'il faisait une loi ordinaire avant ou après, pour compléter. Finalement, ce sera après. Autant je ne suis pas fan de Jean-Luc Mélenchon, autant le faites mieux, ça devrait être une devise nationale, tellement de gens devraient s'inspirer de ça plutôt que de tout critiquer. Oui. Oui, je suis d'accord. C'était une belle phrase, faites mieux. Ça aurait pu être son testament politique. Un vrai de Frédéric Lordon sur Incroyable, il serait. Sur Baxit, il serait incroyable. Pourquoi tu veux que j'invite Frédéric Lordon sur Baxit? Est-ce que c'est parce que tu es déjà d'accord avec ce que dit Frédéric Lordon, auquel cas tu n'as pas besoin de le voir sur Baxit? Comment ça, le gouvernement doit faire une loi ordinaire après celle de financement? Elle ne suffit pas à elle-même pour réformer les retraites. Si, mais la réforme des retraites est un package global qui comprend à la fois des mesures sur l'âge et la durée de cotisation, mais aussi des mesures complémentaires, notamment sur la pénibilité, le travail des seniors et les carrières longues. Donc il faudra qu'il y ait un deuxième véhicule législatif avec d'autres mesures qui complètent les premières. As-tu une préférence pour un parti politique? Non. J'espère que vous avez compris que j'aimais pas le racisme. Une fois que j'ai dit ça, vous pouvez me classer où vous voulez, vous me latéralisez où vous voulez. Ça en dira plus sur vous que sur moi. C'est votre problème. Est-ce qu'il y aura des débats contradictoires sur Baxit? Non. Baxit n'est pas une émission dans laquelle il y a des débats. En tout cas, à ce stade, c'est un choix que j'ai fait. C'est pas une émission de débat. Un jour peut-être, mais pour l'instant, non. Je me souviens d'AZ Event où t'avais fini en quarté. Bah oui, mais t'avais compris que c'était une blague. Enfin, t'avais compris, j'espère que c'était un donation goal. Parce qu'il y en a qui font les blagues sur l'UDI, mais il y en a, j'ai l'impression que c'est premier degré dans leur tête. T'es en mode, les gars. Vous aviez compris que c'était une blague? Non? Né. C'était pour la carte collector Giscard, exactement. Des gens premier degré sur Internet? Non. Très peu, très peu. Elle a bien vieilli la carte. En vrai, je sais pas où elle est, parce qu'entre-temps, j'ai déménagé, je sais pas où je l'ai foutue. Je suis désolé. Je la retrouve un jour, mais je sais pas où elle est. L'intime premier degré ne déçoit jamais. Ah non. Toujours là, hein, les premiers degrés. Je pense qu'il faudrait que je m'arrête de tweeter. Je pense que ça me ferait du bien. Je pense que ça ferait du bien à beaucoup de monde. Parce que j'ai l'impression de décevoir tout le monde à chaque fois que je tweet, donc faut vraiment que j'arrête. Mais en même temps, quand je déçois la team premier degré, ça me dérange pas. Et là, j'ai encore fait un tweet qui a énervé. Non, ça, en plus, ça a pas énervé, mais ça a lancé un débat. C'était juste après, justement, vendredi, le débat du siècle sur la réforme des retraites. Qu'est-ce que j'ai tweeté comme connerie? J'avais tweeté comment? Un truc genre franchement, ce serait pas plus simple si on faisait une retraite à points. Moi, je trouvais ça drôle. C'est compliqué vos histoires d'âge légal là et de durée de cotisation. On peut pas créer juste un système à points où on cotise, ton âge de départ en fait c'est toi qui choisis. Enfin, je veux dire, ça dépend de du montant cotisé. Ça me faisait marrer. Il y a des gens, ils ont pas rigolé. PTSD 2019. Du coup, j'ai reçu des DM, il y a des gens qui m'ont dit: Ah, mais c'est à ça que ça servait la retraite à points? Enfin, je veux dire, l'idée c'était de calculer non plus selon l'âge, mais. Ah, d'accord. Putain, vous faites chier quand même, je vous l'ai expliqué pendant 6 mois à l'époque. Merde, abonnez-vous. Moi, ça me fait chier de passer du temps à expliquer des réformes si c'est pour qu'elles soient pas adoptées à la fin. Ça vous embrouille l'esprit. Est-ce qu'il y a une raison qui a été avancée pour changer d'approche comme ça sur la réforme? Les paramètres sont devenus plus importants que le système. C'est la réforme. En fait, c'est la justification du Covid. Covid, into forte dépense publique pour soutenir l'activité économique, into reprise économique, baisse du chômage. Et volonté du gouvernement de profiter de la reprise économique pour réformer le système de retraite et garantir la soutenabilité à terme du système. Virgule, sans augmenter le coût du travail, ni la dépense publique, ni le taux de PIB consacré au système de protection sociale, ni aux pensions des retraités. Donc, en jouant sur la variable d'ajustement qui est la seule à laquelle le gouvernement s'est senti autorisé à toucher, c'est-à-dire l'âge légal. Ni les impôts. C'est un choix politique qui est celui du gouvernement. Ce n'est pas une évidence mathématique et scientifique, comme parfois le gouvernement a trop tendance à le présenter les choses. C'est un choix. C'est une décision qui est critiquable en tant qu'elle est une décision et un choix, puisque d'autres choix sont possibles, avec leur lot d'avantages et d'inconvénients. Selon comment on est orienté, c'est pas pareil. Rien que là, c'est orienté, puisque non, le système de retraite n'est pas en danger. Déjà, tu peux dire merci Marisol Touraine. Faut rendre à Marisol Touraine ce qu'est à Marisol Touraine. Tous les gens qui disent le système de retraite n'est pas en danger, vous avez conscience que c'est, enfin que vous êtes d'accord avec la réforme Touraine, hein? Parce que toutes les projections qui sont faites par le Conseil d'orientation des retraites à horizon 2030 prennent en compte l'entrée en vigueur de la réforme Touraine. Donc tous les scénarios où vous voyez que le système est maintenu et à flot, c'est grâce à la réforme Touraine, c'est grâce à l'augmentation à 43 ans de l'augmentation de la durée de cotisation. Sauf que la réforme Touraine, c'est une augmentation très progressive, jusqu'en 2035. Et par extension, merci François Hollande. Et par extension, merci François Hollande. C'est ça. Sûr que François Hollande, il regarde Thomas Porcher et tout sur les plateaux de télé en disant, bah, tu pourrais dire merci quand même. Putain! Il y a toute la gauche qui défile sur tous les plateaux télé en disant notre système de retraite n'est pas en danger, il n'y en a pas un seul pour dire merci Hollande. Bref, je reviens à ce que tu disais sans troller. Notre système de retraite n'est pas en danger. Ça dépend comment tu regardes. Voilà. Le travail que fait le Conseil d'orientation des retraites est un travail qui a ses limites. Et qui ne fait rien d'autre que dresser des scénarios sur la base de calculs dont on peut discuter. Et non, il n'y a pas de vérité scientifique absolue. C'est-à-dire que, comment vous le dire? Autant quand le GIEC vous fait des scénarios des modèles d'augmentation de la température dans les décennies qui viennent. On ne peut pas le remettre en cause parce que ce sont des modèles basés sur des variables qui ne vont pas changer d'ici là. Ok? La quantité de gaz carbonique dans l'atmosphère est une donnée qui est connue. On peut jouer sur le ralentissement, voire la réduction de l'augmentation de la quantité qu'on met dans l'atmosphère, mais le fonctionnement du gaz carbonique sur l'effet de serre, etc., c'est connu. Quelque chose qu'on maîtrise. Donc on peut faire des projections. On sait comment ça marche. Ok? Le conseil d'orientation des retraites travaille sur une matière qui n'est pas connue par définition et qui peut tout le temps changer, qu'on appelle l'économie. Personne n'est capable de dire quel sera le taux de chômage en 2035. On peut faire des hypothèses. On peut faire des hypothèses plus ou moins raisonnables. Personne ne sait quel sera le taux de croissance en 2035. On fait 2 000 milliards d'euros de PIB par an. Ok, ça peut s'effondrer, ça peut exploser, il peut se passer plein de trucs. Voilà. Regardez le Covid. Personne pouvait prévoir le Covid, hein. Il n'y a aucun économiste au monde n'a fait des projections dans les années 2010 prévoyant un arrêt brutal de la production mondiale et des échanges mondiaux en 2022, en 2020, pardon. Personne. C'est un accident. C'est comme ça. La chute du mur de Berlin, pareil. Personne n'a pu prévoir ce truc-là. Il n'y a aucune entreprise dans le monde, aucun gouvernement dans le monde n'a fait des projections dans les années 80 qui prévoyaient, a priori en 1989, devrait y avoir un bouleversement majeur des équilibres géopolitiques mondiaux qui va offrir des opportunités nouvelles. Et personne ne fait des projections comme ça. C'est, voilà. Donc tout ça pour vous dire que le Conseil d'orientation des retraites, je vous invite à lire son rapport. Alors c'est de la littérature un peu difficile, hein. Justement, parce que le Conseil d'ailleurs, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que le Conseil d'orientation des retraites, quand vous lisez ce qu'il écrit, ils commencent leur rapport par des dizaines de pages dans lesquelles ils expliquent noir sur blanc, attention, prenez avec des pincettes ce qu'on écrit. Genre vraiment, le corps dit aux gens, genre le mode d'emploi de ce document. Alors attention. voilà, attention, hein, voilà, on a fait des calculs, on a fait des projections, mais bon, on est parti sur des hypothèses raisonnables. Il y a des hypothèses qui nous ont imposées par les statuts du corps, etc. Il y a des hypothèses qu'on a prises parce qu'elles nous paraissaient pas débiles. Il y a des hypothèses qu'on accepte comme vraies parce que c'est un consensus scientifique parmi les économistes partout en Europe. On décide que c'est à peu près ça le taux de change, machin. Enfin, tu vois. Bon. Et seulement quand tu as lu toutes ces pages, il commence les projections. Donc voilà, donc attention quand on dit notre système n'a pas besoin d'équilibre, etc. Notre système de retraite n'a pas besoin, n'est pas en danger si, virgule, et là il faut mettre une liste de trucs qu'on n'est pas sûr. Voilà. Donc, si on a un taux de croissance qui se maintient, si on a une productivité qui augmente, si on a un PIB qui augmente, alors mollement, bah oui, non, j'ai dit taux de croissance, pardon. Donc, taux de croissance qui augmente, PIB 1, taux de chômage qui baisse pas, taux de chômage qui n'augmente pas, pardon. Donc, bien malin celui qui est capable de nous dire machin. Si on a des rentrées fiscales qui maintiennent, si l'État maintient sa participation au financement des caisses de retraite. Ça, c'est un impensé du corps. Conseil d'orientation des retraites part du principe que l'État continuera à donner autant d'argent chaque année. Ok, peut-être. Mais enfin, peut-être pas. Pas absolument sûr. Je ne sais pas qui sera le prochain président de la République, hein. Et je ne sais pas quelle décision il prendra. Puis je ne sais pas si l'État aura toujours les moyens de. Enfin, voilà. si ça se trouve, on aura une explosion, une nouvelle crise des dettes souveraines dans les 5 ans qui viennent, une augmentation des taux d'intérêt pour tous les pays d'Europe, la France va s'effondrer comme la Grèce en 2008. Puis là, ça va commencer à devenir sacrément difficile pour l'État de continuer à filer du pognon aux caisses de retraite. J'en sais rien, je sais pas. Donc voilà. Donc vous avez compris ce que je voulais dire? Si on part sur on ne sait rien du tout de l'avenir, on n'a pas non plus de pouvoir que le système actuel doit être réformé. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de faire des projections. C'est normal de faire des projections. On ne va pas s'empêcher de faire des projections. De la même manière que toute entreprise fait des business plans sur plusieurs années. Évidemment que par définition, c'est une projection. Donc par définition, bon, bah, il peut y avoir un accident demain. Oui, il peut y avoir un accident demain. Bon, mais s'il n'y a pas d'accident, on va quand même faire des projections. Il faut quand même qu'on se projette dans une direction. Sinon, ça n'a pas de sens. Jean président. Ah, moi, j'ai aucune envie de présider quoi que ce soit. Hein. Je suis en désaccord. Ce qui compte, c'est le pourcentage du PIB alloué. Que ça vienne de l'État via des cotisations directement est une autre question. L'État ne peut pas se défausser en mode je dois me désengager. Oui, mais ça dépend le taux d'emprunt nécessaire pour financer ça. Il est souvent mis sur la table la taxe sur les super profits, mais étant très nul en économie, est-ce que c'est une chose faisable à l'échelle de notre pays, donc plus ou moins un choix de société, ou c'est plus compliqué que ça avec les effets secondaires délétères potentiels sur le plan économique? Non, non, c'est faisable. La taxation des super profits, c'est faisable, hein. Ça aura des impacts économiques de fait. Parce que les entreprises, pour ne pas payer cette taxe sur les super profits, feront en sorte de ne pas les payer. Donc, il y aura plus d'optimisation, il y aura probablement moins de projets d'investissement, etc. Mais bon, ça c'est comptable visiblement. Mais c'est faisable, bien sûr, à taxer les super profits. Après, c'est une décision politique. Est-ce qu'on a envie que l'État, via l'impôt, est-ce que l'avenir de notre système de retraite, c'est que l'État vienne au secours du monde du travail pour financer à sa place? Moi, je suis pas sûr. Moi, je fais partie des gens qui sont pas méga fans de l'étatisation de la sécurité sociale. Je suis un peu un cégétiste à l'ancienne de ce point de vue-là. Moi, je préfère l'idée que ce soit les travailleurs et le monde du travail qui possèdent ses propres caisses de solidarité. Ça me fait chier quand l'État vient foutre son nez dedans. Alors bon, tu me diras, il vient foutre son nez pour de bonnes raisons, parce qu'il vient filer du pognon. Bon, on est sympa, on crache pas dessus, on dit merci, parce qu'on est bien élevé. Mais à terme, je préférais que les gens soient mieux payés et qu'il y ait des parts, et que les cotisations augmentent, tant patronales que. Après, je comprends les arguments sur la politique économique de la baisse du coût du travail, etc. Ça va, je suis pas débile, mais bon, ça me fait chier, quoi. Il faudrait que les ouvriers possèdent aussi les outils de production du coup. Ça ne changerait absolument rien. Ça ne changerait absolument rien. Il n'y a pas que ça. L'État, il fixe aussi des objectifs caca avec l'ONDAM. Ah ouais, non, mais là, t'es en train de confondre l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, mon gars. S'il te plaît. Il y a encore des années de recherche entre pots avant qu'ils se mettent d'accord, mais à l'heure actuelle, il y a plusieurs races humaines coexistant sur Terre. Hein? Après, la Sécu, c'est un organisme privé. Privé, t'es marrant, toi, oui. Si c'est comme ça que tu vois les organisations paritaires, oui. Oui. Techniquement, oui. La CGT est une organisation privée, de droit privé, comme on dit. Après, bon, en organisme privé, si tu veux, enfin, les cotisations sont obligatoires, les pensions sont des droits. J'ai envie de dire, il n'y a plus grand-chose de privé là-dedans, quoi. Quel est selon toi le meilleur compromis pour un système de retraite? Ah, mais j'en sais rien. Moi, c'est pas selon moi. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre que des banalités que tout le monde dit déjà? Il faut un meilleur équilibre de rémunération entre le capital et le travail. Si le travail était mieux rémunéré par rapport au capital que ce que c'est aujourd'hui, on aurait beaucoup moins de problèmes de financement de notre assurance maladie, assurance vieillesse, politique familiale, accident du travail, etc. C'est une banalité sans nom ce que je viens de dire. Donc voilà. Il faut que plus d'argent aille vers la rémunération du travail, par rapport au capital. Jean-Michel Iacafaucon, votez pour moi, c'est facile. Que penses-tu du salarié actionnaire? Bah, l'actionnariat salarié, c'est bien, je ne veux pas cracher dessus, c'est très bien, c'est comme l'intéressement, c'est très bien l'intéressement, je suis pour. Mais je suis pour que ce soit, je suis pour que ce soit obligatoire, je suis pour que ce soit partout en Europe. Enfin, je suis contre les effets de bord qui feraient tout perdre à des entreprises sous prétexte qu'elles sont plus vertueuses dans un pays que dans un autre, donc je comprends bien la logique, mais c'est ici pour glisser des dispositions sous le bureau. Salut Claire. Merci pour ton resub. Et pour cela, on ne pourrait pas baisser le taux de prélèvement obligatoire gargantuesque. Tu peux pas. Enfin, c'est une question de point de vue et on peut en débattre. Attention, hein. Je ne possède pas la vérité. Il n'y a pas de vérité en la matière. Il y a des choix politiques. Et c'est très noble de faire des choix politiques. Tu peux pas regarder le taux de prélèvement obligatoire comme seul. Merci beaucoup à l'illustre inconnu qui a pris une place. Tu peux pas regarder le taux de prélèvement obligatoire comme seule mesure du niveau d'efficacité d'un système. Là, pour le coup, je suis assez d'accord avec comment il s'appelle, le président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, Hervé Marseille. Non, c'est Jean-François Mattéi, qui disait que dans la compétition mondiale, on ne peut pas regarder que le taux de prélèvement obligatoire, on doit aussi regarder ce qu'il y a en face. La France est un pays compétitif dans l'économie mondiale, aussi, voire même parce que on a un bon système de santé, on a des gens en bonne santé. On a des gens qui sont relativement bien logés. On a des gens qui sont éduqués. On a un indicateur de développement humain qui est supérieur. On a un système de santé qui marche bien. Donc, si la France est un des pays d'Europe qui attire le plus d'investissements étrangers, alors qu'on a soi-disant un des coûts du travail les plus chers du monde, c'est pour de bonnes raisons. Oula, pourquoi ça frise là? Eh oh, non, c'est bon, c'est réglé. C'est en train de baisser. Oui, mais c'est quand même pas comparable un quart de seconde avec d'autres pays. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'infrastructure qui garantit aux entreprises le fait que leurs investissements sont quand même relativement sûrs. C'est pas la même chose d'investir en France que d'investir en Europe de l'Est, en Asie du Sud-Est, etc. Donc, il y a un moment, si tu veux, ton taux de prélèvement, c'est OK, t'investis en France, tu auras un taux de prélèvement important, mais en face, tu auras une qualité importante. On a des travailleurs bien formés, on a des ingénieurs parmi les meilleurs du monde, on a des infrastructures qui marchent très bien, on a un système de santé, on a, enfin voilà, t'as tout un tas de trucs qui fait que c'est plutôt premium, quoi, comme niveau d'offre. C'est un ensemble des deux, car si tu augmentes l'impôt sur les sociétés, les investissements et créations d'entreprises vont baisser quand même. C'est pour ça que je suis d'accord avec toi, il faut faire attention. Tu peux pas faire n'importe quoi et tu ne peux pas, et ça c'est vrai que là pour le coup je vais être en désaccord avec une bonne partie de la gauche, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ce sera pas la première fois. Tu peux pas faire semblant, on n'est pas une île au milieu de nulle part, et tu peux pas faire semblant de dire je tiens pas compte du contexte. Tu peux pas faire ça. Tu peux le vouloir très fort, mais tu risques de faire plus de mal que de bien. Pavé de bonnes intentions, certes, Donc, tu es obligé de coordonner ta politique économique avec celle de l'Allemagne, avec celle de l'Espagne, de l'Italie, du Royaume-Uni, etc. Tu es obligé. Brexit, par exemple. Bah, c'est un très bon exemple, tu vois, le Brexit. Merci, colonel Abitbol. Dans le genre mentir aux électeurs en leur faisant croire qu'il n'y a pas de problème, on va s'en sortir tout seul. Alors que ton principal marché à l'exportation, c'est l'Union européenne. C'était vraiment prendre les Britanniques pour des cons. Le contexte, c'est important. Bah ouais. Ouais. Le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, mais ils n'ont pas bougé d'un centimètre territorialement. Ouais, c'est con, hein. Parce que du coup, bah leur marché d'exportation, il n'a pas changé. C'est toujours le même. Donc les Britanniques sont cons? Non, les Britanniques sont pas cons. Ils ont été pris pour des cons. Et maintenant, c'est tendu socialement là-bas. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Les gens qui ont voté pour le Brexit sont les premières victimes du Brexit. C'est d'un niveau d'ironie et de cynisme. L'objectif, c'était pas de commercer davantage avec le Commonwealth. Ouais, mais alors ça, c'est pareil. Enfin, je sais. Tu ne peux pas remplacer ton premier partenaire commercial par un autre partenaire commercial qui se trouve à l'autre bout de la planète. Ça n'a pas de sens. Quand Boris Johnson disait, vous inquiétez pas, on va faire un super traité de libre-échange avec les États-Unis, les gens disaient, mais t'es gentil, mais les États-Unis, enfin, je sais, c'est autrement plus compliqué d'exporter aux États-Unis qu'exporter en France, en Belgique, au Danemark, au Royaume-Uni. Enfin, tu sais, enfin, tu peux pas décréter ça, en fait. Il y a un moment. Faut juste un long tunnel sous l'Atlantique. Oui, ben c'est ça, c'est-à-dire que enfin voilà, le premier client des produits britanniques. C'est l'Union européenne. Donc tu peux pas aller expliquer à des ouvriers qui bossent dans des usines au Royaume-Uni qu'on va quitter l'Union européenne, donc on va tourner le dos à nos clients habituels pour éventuellement hypothétiquement aller chercher des clients à l'autre bout du monde, alors que ton usine fabrique des produits qui conviennent à ces clients-là depuis. Enfin voilà. C'est qu'à un moment, faut pas s'étonner si le mec perd son boulot après. C'est terrible, hein. Enfin, moi je trouve ça d'un cynisme terrible. Et pareil, le premier marché à l'importation, enfin le Royaume-Uni importe d'abord de l'Union européenne. Ça, c'est pareil, hein. D'ailleurs, je trouve que les médias en parlent très peu de la situation au Royaume-Uni, alors que c'est des vraies grosses catas là-bas. Bah, ça dépend ce que tu lis, mais moi j'ai lu plein d'articles, hein. On a des économistes comme Charles Gave qui estiment que le Royaume-Uni a gagné au change. Bah, faut les dire ça aux travailleurs britanniques, hein. Tous ceux qui ont perdu leur boulot là, faut leur dire, vous avez vu, vous êtes mieux maintenant. Et les pêcheurs français? Bah oui, évidemment, les pêcheurs français, ils ont la haine parce que pour avoir le soutien des pêcheurs britanniques, les responsables politiques britanniques ont vendu aux pêcheurs britanniques qu'ils allaient avoir l'exclusivité dans leurs propres eaux. Bah, tu m'étonnes qu'évidemment, c'est au détriment des Français. Bah oui. Ils ont fait le Brexit pour voler nos poissons. Ah, techniquement, c'est les leurs de poissons. C'est dans leurs eaux à eux. Veux dire que le poisson que les Britanniques eux-mêmes ne pêchent pas? Bah oui, oui c'est ça. Le poisson qui roule à droite. Ça appartient à quelqu'un, les eaux, c'est pas international. Bah non, les eaux internationales sont internationales, mais les zones de pêche, quand ils sont dans les eaux territoriales, bah il faut l'accord d'un pays pour pouvoir pêcher dans ces eaux territoriales. Donc les pays signent des accords. On appelle ça des accords de pêche qui autorisent des bateaux d'un autre pays à venir pêcher chez eux en échange. Alors bon, après ça se négocie, il peut y avoir des taxes, il peut y avoir des. Il faut renouveler chaque année sa demande pour avoir son droit, machin. Ça se négocie, c'est très classique hein, pour le coup. Quota de pêche, c'est vieux comme l'Antiquité, hein, les premières négociations sur des quotas de pêche. Donc t'as le droit à tant de tonnes de poissons, c'est négocié, c'est discuté. Voilà. Donc au niveau européen, les quotas de pêche sont négociés au niveau européen. Donc tous les bateaux européens ont le droit de pêcher dans les eaux européennes à condition qu'elles respectent les règles, machin et tout. Mais quand le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, bah du coup les pêcheurs français se sont retrouvés à devoir demander aux Britanniques une autorisation de pêcher dans leurs eaux. Les Britanniques au début avaient juré, dans le cadre des négociations pour le Brexit, ils avaient juré aux Français et aux Belges et à tout le monde que, oh vous inquiétez pas, on pourra continuer à faire comme avant, c'est pas un souci. Tu parles. Dès que les Français sont allés me déposer leur dossier pour demander un agrément, les Anglais leur ont dit finalement, ça va être plus compliqué que prévu. On va être chiant. Les poissons, ils n'ont pas de passeport. Comme ça, les Anglais, ils pêchent dans les eaux anglaises et les Européens, les poissons européens, ce serait plus simple. Je suis d'accord avec toi. C'est la zone de pêche qui leur appartient, pas les poissons, car ils peuvent migrer, je te rappelle. Ah oui, mais c'est ce que je dis, je parle de zone de pêche. Faut quand même pas que je précise que les poissons, ça peut nager. Ah, vous êtes con! Mais vous êtes drôle. Est-ce que la France aussi elle fait des coups de pute comme ça? Zone de pêche UK, sous-marin US, etc. C'est le jeu. Ouais, je saurais pas te donner d'exemple. À qui on a fait des coups de pute comme ça, nous, la France? Malgré notre supériorité morale éternelle. En Afrique, oui. Non, mais ça, oui, mais. Mais je pensais récemment, en fait, oui, non, si on va chercher dans l'histoire, remontez pas jusqu'à Azincourt. Hein. En plus, on n'avait rien fait à Azincourt, c'est les Anglais qui ont attaqué. Non, mais est-ce qu'on a retourné notre veste au dernier. Ah, si! Ah, si! Si, 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 si. François Hollande, 2014, 2013-2014, qui refuse de livrer aux Russes les bateaux qu'ils ont achetés. Bon, rétrospectivement, heureusement, on aurait eu l'air con sinon. Mais oui. Oui. Ah, Italie, chantier Atlantique, t'as raison. C'est quoi cette histoire? Ah, vous vous souvenez pas? Nicolas Sarkozy avait vendu aux Russes deux porte-hélicoptères dernière génération, tout neuf. Petit bijou de technologie. Ils étaient magnifiques. Mistral, c'est ça. C'est le nom des bateaux, c'était des Mistral. Et c'est François Hollande qui se retrouve président de la République au moment où la livraison doit être faite. Et François Hollande, il décide de dire non, on livrera pas les Mistral à la Russie, qui les a achetés. Donc, il y a eu négociation d'une compensation, évidemment. En droit international, on fait pas ce qu'on veut non plus, donc la France a payé, mais les Russes n'ont pas reçu leur bateau. Parce que la Crimée. Parce qu'entre-temps, Poutine avait envahi la Crimée. Donc Hollande, il a fait eh oh! Donc voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, il y a effectivement les chantiers de l'Atlantique. Les chantiers de l'Atlantique, c'était STX? C'est ça? Qui devait être racheté par un consortium italien, qui était prêt à acheter, qui était prêt à signer. Et la France a répondu non. Nationalisation. C'est ça, c'était les chantiers STX à Saint-Nazaire. Non, on va nationaliser. Donc, niquer les investisseurs. C'est Emmanuel Macron qui a pris cette décision. Emmanuel Macron, c'était en 2017, en 2018 en plus, hein. Emmanuel Macron, le grand libéral, qui une de ses premières décisions, ça a été une nationalisation. Je trouve ça très drôle. L'ironie, toujours l'ironie. Les chars Leclerc vendus aux Émirats, aujourd'hui Hollande se vante d'avoir vendu des chars inutilisables car incondensables dans le sable. Ah ouais? Inconduisible? Le rachat de la boîte de métallurgie par les Américains. Ah oui, pareil, la France s'est opposée au rachat d'une boîte en Savoie, c'est ça? Non, attends, je sais plus. Non, tu confonds avec Mittal? Alstom? Je sais plus. Donc bref, vous voyez, nous aussi, la presse étrangère, parfois, elle a des mots durs contre la France. On fait des trucs pas cool. Ah bah un jour, la France a refusé de soutenir une résolution aux Nations Unies en faveur de l'invasion de l'Irak. Ça, les Américains ils nous ont pas aimés. Hein. Ah, on s'est engueulé. Ah non, c'était pas bien ça. Ah, ils étaient pas contents. Je me souviens, il y avait des représentants américains, des sénateurs américains qui menaçaient de faire des mesures de rétorsion sur le vin et le fromage. Ils voulaient s'en prendre à notre pinard et à notre frometon pour nous faire payer le non-soutien à leur guerre. Finalement, c'est les Girondins qui ont payé cher. Hey, regardez. Regardez le bouquin que j'ai reçu. Osons comprendre l'avenir de l'énergie. C'est Ludo qui me l'a envoyé. Ludo d'Osons causer. Merci Ludo. C'est leur nouveau bouquin qui est sorti aux éditions Flammarion. Un bouquin entier écrit sur l'énergie. Il y a des dessins et tout, c'est facile à lire, vous devriez l'acheter. Il me l'a dédicacé en plus. Salut Jean, voilà quelques pages pour éclairer la future PPE, à ta disposition pour en discuter autour d'une bière. Continue le bon boulot, l'ami. Je t'embrasse, Ludo.
Merci, Ludo.
Tu fais plaisir.
La PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Trump l'a fait aussi en réponse au projet de GAFA. Ah oui, taxe GAFA, oui, oui. Non, mais ça, c'est au niveau de l'Union européenne. C'est pas au niveau de la France, c'est au niveau de l'Union européenne. Donc voilà, osons comprendre, c'est le site internet qui a été créé donc, par Ludo d'Osons Causer. Ludo et son acolyte dont j'ai oublié le prénom, j'en suis désolé. Stéphane. Et donc voilà, donc, ils ont sorti ce bouquin, ils ont fait beaucoup de vidéos et c'est un peu un condensé de leurs vidéos sur l'énergie. J'ai pas lu, encore, parce que je l'ai reçu hier. Voilà. C'est quand les débats PPE ? Bonne question. Osons comprendre l'avenir de l'énergie aux éditions Flammarion. Merci Ludo de me l'avoir envoyé, c'est cool. Fait cool. Le PPE, c'est l'équivalent énergie de la LPM de en défense ? Ouais. Ouais, bah c'est une loi pluriannuelle. C'est une loi de programmation pluriannuelle. On prépare les investissements sur plusieurs années. Je vous ai dit que j'allais faire moins de stream cette semaine. Ah oui, c'était le mensonge que je vous ai fait tout à l'heure. Je vais faire moins de stream cette semaine. Parce que je suis malade, parce qu'il y a des travaux chez moi. Et c'est quoi la troisième raison ? Parce que c'est les vacances parlementaires aussi. Il n'y a pas QAG demain. Il n'y a pas de QAG demain. Donc, trop cool. Est-ce qu'on ferait pas un raid chez les copains de Mediapart ? Si, on fait un raid chez Mediapart. Je vais m'arrêter là, les amis. Petit raid. T'es relou. Dès que j'offre des subs, tu pars en vacances ou t'es malade ? Mais non, mais... Vas-y, là. Arrête de mettre la pression. Non, j'ai dit que j'allais moins streamer, j'ai pas dit que j'allais pas streamer. Allez, on fait un raid chez Mediapart qui fait son émission du lundi. Merci à tous d'avoir été là, c'était cool, je vous fais des bisous. On se retrouve plus tard dans la semaine. Tranquille, peinard, chill. Il y aura Backseat cette semaine, ça c'est sûr. Il y a Backseat, ça c'est sûr. Merci à vous d'avoir été là. À bientôt, bonne soirée. Salut tout le monde, ciao.